Eh bien, bienvenue sur le cours de F6KGL, bonsoir à tous. Et donc ce soir, on voit la deuxième partie du chapitre 4. C'est le dernier chapitre de ce que j'appelle des composants passifs. On verra la différence entre un composant actif et un composant passif la semaine prochaine quand on va commencer justement les composants actifs. Et donc ce soir, on voit l'assemblage le plus intéressant et ce qui va finalement nous guider par la suite très souvent, ce sont les circuits LC et la loi qui les régit, c'est-à-dire la loi de Thomson. Donc, on avait vu la semaine dernière l'association de résistance et de condensateur ou de résistance et de bobine pour faire des filtres passe haut ou des filtres passe bas. Et là, on va voir des associations, mais avec des bobines et des condensateurs pour faire aussi des filtres passe haut et des filtres passe bas, mais pas que. Donc, on va commencer déjà par voir ces fameux filtres passe haut et passe bas. Puis après, on va voir ce que l'on peut faire aussi avec des bobines et des condensateurs associés. Donc, première chose, je vous ai mis ici, là, une photo d'un circuit LC. Je l'ai ici à côté de moi, donc je vais vous le passer à la caméra. Le voilà. Donc c'est un circuit LC, alors j'aurais dû le mettre d'ailleurs dans l'autre sens, comme ça on voit bien. Donc une bobine, un condensateur, alors un condensateur que j'ai un petit peu ouvert ou un petit peu fermé, selon ce que l'on veut dire. Donc là, les plaques ne sont pas toutes rentrées, hein, elles sont à moitié rentrées, alors on le voit mieux peut-être dans ce sens-là. Et donc ça veut dire que là, le condensateur, la valeur du condensateur, elle est à peu près à mi-course. Alors, elle est de 195 picofarad, hein, c'est marqué dessus, donc on va dire 200, et donc quand c'est à mi-course, évidemment, ça fait 100 picofarad. Ça marche bien. Et donc, bah voilà, il suffit après de rentrer un peu plus ou moins les lames ou de les sortir plus ou moins. Alors, ça se fait plus simplement qu'au doigt ici parce qu'on a ici un petit. Enfin, on peut le faire avec un tournevis. Alors, évidemment, c'est un tournevis pas métallique, mais on va utiliser des tournevis spéciaux pour ne pas perturber le circuit, évidemment. La bobine, elle va pas trop changer de valeur, puisqu'elle ne peut pas trop changer sa forme. En revanche, on peut éventuellement mettre un noyau ferrite à l'intérieur pour en changer la valeur, mais c'est pas le but du jeu. Là, ce que l'on va faire essentiellement, c'est changer la valeur du condensateur pour changer la valeur du circuit. Donc, voilà un circuit typiquement... Là, en l'occurrence, c'est un circuit bouchon, mais on va voir toutes les formes de circuits que l'on peut faire. En fait, il y en a quatre. Il y a quatre formes de circuits que l'on peut faire avec une bobine et un condensateur selon le sens qu'on les montre. Donc, les circuits LC, je reviens sur mon PDF. Les circuits LC, ce sont des filtres composés de bobines et de condensateurs. Là, je vous ai montré un filtre avec une bobine et un condensateur. Mais on peut en avoir beaucoup plus. Enfin, plus de bobines et plus de condensateurs, évidemment, on n'aura pas le même effet. Voilà. Lorsque les bobines et les condensateurs donc, sont montés comme on avait vu la semaine dernière, c'est-à-dire en filtre, passe haut ou passe bas, donc, en fait, quand on utilise un filtre RC, il suffit de remplacer la résistance par une bobine et on a un filtre LC passe bas ou passe haut selon la place du condensateur comme on avait vu quand on avait fait le filtre RC. Et donc on a le même effet coupure. ce qui va être différent, c'est juste la pente. C'est-à-dire, on avait vu qu'il y avait 6 dB par octave pour un condensateur, enfin pour un filtre RC. Lorsqu'on a une bobine, en plus, on va avoir un effet plus important de perte, enfin tout au moins de filtrage, à partir de la fréquence de coupure. Bon, on va voir comment se calcule cette fréquence de coupure juste après. Mais surtout, donc on a donc le filtre soit passe haut ou passe bas selon la place du condensateur et la place de la bobine, mais aussi on peut les mettre soit en série ou en parallèle. Ici, ça c'est un filtre parallèle ou un circuit bouchon. Donc voilà le circuit dessiné sous forme schématique. Et quand on est en série, évidemment, on a la bobine et le condensateur qui sont en série. Donc en fait, ces filtres-là n'ont pas un effet de coupure, mais ils ont un effet de résonance, quelque chose qu'on n'a pas vu encore avec les filtres RC la semaine dernière, puisque le filtre RC ne va avoir qu'un pouvoir de coupure, et pas de résonance comme un filtre LC, donc bobine condensateur. Il n'y a que les filtres LC, alors avec plus ou moins de bobines et de condensateurs, mais il n'y a que ces filtres-là qui ont un effet résonance. Et on va voir ce que c'est que l'effet résonance. Et donc les filtres LC, on a vu les filtres RC, c'est plutôt du domaine basse fréquence, compte tenu des valeurs de la résistance et du condensateur. Pour les filtres LC, on va être plutôt dans le domaine haute fréquence, compte tenu des valeurs de la bobine et des condensateurs. Évidemment, on peut très bien imaginer des filtres MC qui fonctionnent sur de la basse fréquence. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on va faire la démonstration sur le site des figures animées, on va voir fréquence de résonance 317 Hz. Donc c'est vraiment très faible. Hein, on est dans le domaine BF. Mais dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire haute fréquence, on va plutôt avoir justement ce genre de bobines et de condensateurs avec des valeurs assez faibles, hein, qui vont permettre comme ça de monter en fréquence. En ce qui concerne la fréquence de coupure ou la fréquence de résonance, alors, que veut dire LC ? Alors, L, c'est une bobine. Alors, L, ça veut dire pas grand-chose. C'est utilisé pour désigner une bobine. Et ça vient de Lenz, Monsieur Lenz, qui a travaillé beaucoup sur les bobines. C'est comme condensateur, ça va. Vous allez pouvoir vous en sortir. Mais elle, parce qu'en fait le problème c'est que en anglais bobine se dit coil, et donc c'est la même lettre que le condensateur, donc il était impossible d'utiliser la même lettre pour désigner deux composants différents. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le L en hommage à Monsieur Lenz. Alors le prénom je ne m'en souviens plus, mais voilà, c'était l'idée. Donc, on a vu la semaine dernière comment calculer la fréquence de coupure, en disant que la fréquence de coupure, c'est lorsque l'impédance de mon condensateur est égale à la résistance. Et bien là, la fréquence de coupure d'un filtre LC, et bien c'est lorsque l'impédance du condensateur est égale à l'impédance de la bobine. C'est tout simple. Et donc, ça c'est valable à la fois pour la fréquence de coupure, mais aussi pour la fréquence de résonance. Donc on va avoir une formule qui va nous donner, et selon le montage, soit la fréquence de coupure, quand on a un filtre passe haut ou un filtre passe bas, ou la fréquence de résonance, lorsqu'on a affaire à un filtre série ou un filtre parallèle, qu'on appelle aussi le filtre bouchon. Voilà, donc ça va fonctionner de la même manière, c'est la même logique. Et donc, ça, c'est ça, ce qu'on appelle la loi de Thomson. parce que c'est Thompson qui a mis en évidence cette loi. Alors, Thompson, je vous ai mis sa trombine ici, là, Monsieur Thompson. Alors, quand même, c'est assez bizarre comme histoire. Donc, Monsieur Thompson, c'était un grand professeur anglais qui a donc travaillé sur la charge et la décharge du condensateur à travers une bobine. Et donc, en 1853, c'est là qu'il fait sa thèse et qu'il démontre que la décharge d'un condensateur à travers une bobine est oscillatoire. On va voir ça un peu après. Donc ça, c'est 1853. Et voilà. Il est tellement connu dans le monde, parce que Thomson, c'est quand même celui qui a fait après, enfin, qui a créé sa société pour après faire tout ce enfin, la société Thomson, hein, donc qui existe encore à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un grand monsieur, et qui a été anobli en 1892. Et en 1892, il devient, donc c'est la reine Victoria, je suppose, je ne sais pas, 1892, ça doit être à peu près cette époque-là, c'est la reine Victoria qui l'anoblit, et du coup il change de nom, puisqu'il devient noble, et donc il est le First Lord Kelvin. Et c'est le Kelvin que l'on va retrouver dans les températures. Donc, ce monsieur Thomson, il a droit à la loi de Thomson, mais aussi à une unité qui porte son nom de noble. Donc, quand même, voilà. C'est quand même intéressant de bien se souvenir de ça. Et donc, c'est la même personne. Hein. Kelvin et Thomson, ce sont les mêmes. Il y en a un qui est, enfin, il a été anobli, enfin, à la fin de sa vie, puisqu'il est décédé en 1907, donc il a pu jouir de son titre pendant 15 ans quand même. Voilà la petite histoire. Et donc la loi de Thomson, nous y revoilà, elle me dit que l'impédance du condensateur est égale à l'impédance de la bobine. Donc ici, je remplace l'impédance du condensateur par sa valeur, l'impédance de la bobine par sa valeur, je transforme tout ça, je vois que j'ai un F ici de chaque côté, ce qui va m'intéresser c'est calculer la fréquence de résonance, donc ce F ici je l'isole, je le mets d'un côté du signe égal, et le reste je le mets de l'autre côté du signe égal, et après transformation, on a cette formule que vous devez apprendre, encore une que vous devez apprendre. La fréquence en Hertz est égale à 1 divisé par 2 fois pi, donc 6/28, multiplié par la racine carrée de L multiplié par C. L en Henri, C en Farad. Et vous pouvez, si vous le voulez, si vous n'êtes pas à l'aise avec la calculette, pas à l'aise avec les multiples et sous-multiples, vous pouvez utiliser la formule simplifiée. Donc 159 divisé par racine carrée de L en micro-henri, C en picofarad, et ça va vous donner une fréquence en mégahertz. Donc attention encore une fois, si la valeur de la bobine n'est pas en micro-henri ou le condensateur n'est pas en picofarad, il faut déjà les transformer pour arriver à ces sous-multiples, et le résultat va vous donner des mégahertz. Donc voilà, sachant qu'à l'examen, quand on va vous poser des questions, ça va être des formules qui vont des valeurs arrondies, et au lieu d'utiliser le 159 qui est un peu plus précis, vous allez plutôt utiliser le 160 qui est un peu moins précis, mais ça largement suffisant pour ce dont on a besoin. Voilà, donc fréquence de coupure ou fréquence de résonance, c'est la même formule, c'est cette formule de Thomson sur lesquelles va falloir bosser. Encore une formule à apprendre, désolé pour ceux qui vont encore s'en mettre une dans la tête. Alors soit l'une soit l'autre, je vous conseille plutôt la première, et d'utiliser les fonctions multiples et sous-multiples de votre calculette. Voilà. Encore une fois, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les calculettes, vraiment pas à l'aise avec les multiples et sous-multiples, eh bien, utilisez cette deuxième formule avec la formule simplifiée, mais ce n'est pas l'idéal. Les filtres passe haut et passe bas, on les a déjà vus finalement la semaine dernière, si ce n'est que là, un passe haut, bah, ma résistance que j'avais mis à la masse, bien maintenant elle est remplacée par une bobine, et pour le passe bas, même chose, ma bobine est en haut et mon condensateur est en bas. Voilà, donc la place du condensateur ne change pas. Alors oui, LSC, quand je donne une formule générale, LSC c'est toujours en unité. C'est toujours en unité, ça veut dire que la fréquence est en Hertz, la bobine en riz et le condensateur en farad. Hein, c'est le propre des formules générales, c'est que à chaque fois on repart sur l'unité. D'accord ? Donc c'est toujours comme ça. Pour mes deux filtres passe haut et passe bas, on a toujours les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que à la résonance, enfin plus à la coupure, je suis dans un filtre passe haut ou passe bas, à la coupure, j'ai 3 décibels d'atténuation. Et pour les mêmes causes que ce que l'on a vu la semaine dernière pour le filtre RC. C'est-à-dire que comme j'ai l'impédance qui est égale, eh bien, la répartition de ma puissance va être répartie de matière égale, et donc, en sortie, eh bien, j'ai plus que la moitié de la puissance, puisque le reste a été absorbé par le composant qui va être en série dans mon circuit. Hein, donc là, si je suis à la résonance, à la coupure, ici j'ai l'impédance de mon condensateur égale à l'impédance de ma bobine, si bien que j'ai Z égale partout, donc ma puissance va être répartie entre les deux. La puissance qui est ici appliquée sur ma bobine bah, est envoyée à la masse, donc c'est perdu. Et le reste ici, eh bien, puisque c'est ici que je récupère ma valeur, eh bien, j'ai la moitié de la puissance seulement par rapport à ce que j'avais à l'entrée. Donc j'ai bien mes moins 3 dB. Hein, 3 dB, je rappelle, c'est moins 3 dB, c'est la puissance divisée par 2. Et même chose ici, c'est l'inverse. Dans mon filtre ici, passe-bas, ça va fonctionner de la même manière. À la différence de ce que l'on avait vu la semaine dernière avec les filtres RC, maintenant je vais avoir 6 dB par octave et par élément. Alors pour le moment, on n'a pas encore vu on a vu que les filtres RC, les filtres passe haut et passe bas. On va venir après sur la fréquence de résonance. Pour le moment, on ne parle pas encore de la fréquence de résonance. Hein. Allez pas trop vite. Donc pour mes filtres là passe haut et passe bas, la semaine dernière on avait dit que c'était 6 dB par octave, point barre, mais là je vais préciser, puisque maintenant j'ai deux éléments actifs. Alors un élément actif, c'est quoi? C'est un élément qui va réagir à la fréquence. Donc une bobine ou un condensateur. Là, en l'occurrence, j'ai deux éléments. J'ai une bobine et un condensateur. Et donc, la définition de mon filtre passe haut et passe bas, on va en voir tout à l'heure un peu plus loin, presque à la fin du cours, là, des filtres passe haut et passe bas qui ont plus de deux éléments. Et donc, automatiquement, eh ben, ils ont une réjection plus importante. Et donc, là, c'est toujours 6 dB par octave et par élément. Là, j'ai deux éléments dans mes deux filtres là. Donc, mon atténuation, elle est de 12 dB par octave. Alors, quand c'est un filtre passe haut, c'est par octave inférieur, puisque un passe haut, par définition, ça va couper les fréquences inférieures, et un passe bas, c'est l'inverse, ça va laisser passer les fréquences inférieures, mais couper les fréquences au-delà de la fréquence de coupure, et à hauteur de 12 décibels par octave. On peut aussi utiliser 20 décibels par décade et par élément actif, comme on avait vu avec les filtres RC. Et mais là, donc c'est par décade et par élément actif. Donc pour ce type de filtre-là, ça va être 40 dB par décade. Voilà. Et puis si vous avez 3 éléments actifs, eh bien ça fera 18 dB par octave, ou 20 ou 60 dB par décade, etc., etc., etc. Donc là, je vous ai rappelé ici la fréquence de coupure, et on va voir, pas tellement plus loin, mais on va voir que ce qui est important, c'est surtout cette pente. C'est-à-dire que à la fréquence de coupure, il y a quasiment, on perd rien, et avant. Avant, pour un filtre passe haut, on va avoir beaucoup d'atténuation, et pour un filtre passe bas, c'est après cette fréquence de coupure que j'appelle FC qu'on va avoir beaucoup d'atténuation. Et donc ça, ce sont des filtres passe haut et passe bas. D'accord ? Ensuite, on a un filtre qui va s'appeler un filtre série. Filtre série, donc j'ai ma bobine et mon condensateur qui sont l'un derrière l'autre. Donc vous voyez, c'est encore autre chose. Et là, je vais avoir un effet de résonance. Pourquoi ? C'est qu'en fait, lorsque je vais alimenter mon circuit par un courant égal à la fréquence de résonance, eh bien, il va laisser passer cette fréquence. Et si on est et si on n'est pas sur cette fréquence de résonance, eh bien ça va. Alors si on en est proche, évidemment, ça va laisser passer un maximum. Mais plus on s'en éloigne de chaque côté, plus l'atténuation est importante. Et à chaque fois, vous remarquez, j'indique ici moins 60 dB. Ce moins 60 dB, il est très important. Alors premièrement, oui, l'atténuation à la fréquence de résonance, là maintenant c'est 0 dB. J'avais 3 dB tout à l'heure à la fréquence de coupure, là maintenant je n'ai plus aucune atténuation à la fréquence de résonance. D'accord ? Donc là j'ai 0 dB. En revanche, plus je m'éloigne, plus je vais avoir une atténuation, et quand on parle d'une atténuation de 60 dB, on va considérer que tout le signal a été filtré, qu'il n'y a plus rien. Hein, c'est comme notre histoire du remplissage et du vidage du condensateur. Il fallait attendre 5 constantes de temps. Voilà. Pourquoi 5 ? Bah, parce que voilà, c'est comme ça. Et là, pour dire que mon filtre a tout rejeté, eh bien, il faut qu'il rejette plus de 60% de la puissance d'origine. Alors, 60 dB quand même, vous vous souvenez, 60 dB, c'est 10 puissance 6 en termes de puissance. Donc, si j'ai 500 watts, il va me rester pas grand-chose, c'est-à-dire 500 microwatts. Hein, un demi milliwatts, donc pas grand chose, hein. Et j'ai 500 watts au départ. Voilà, donc ça, c'est important de bien avoir ça en tête, et évidemment ça, ce n'est valable que lorsque la fréquence de résonance là est égale à, enfin, lorsque la fréquence du signal est égale à la fréquence de résonance, sinon ça ne marche pas. Alors, entre la fréquence de coupure et l'octave, quelle est l'atténuation? Tout dépend où tu te trouves entre la fréquence de coupure et la fréquence et l'octave. Si tu es plus proche de l'octave, tu es plus proche des 6 dB par octave, et si tu es plus proche de la fréquence de coupure, tu es plus proche des 3 dB, hein, tu es entre les deux. C'est une c'est presque une règle de 3. Hein. Donc voilà. Et donc ces 60 dB, c'est ce qu'on appelle aussi une réjection ultime. D'un point de vue, quand on en vocabulaire technique, on appelle ça une réjection ultime. Et ce qui est très important, c'est que à la fréquence de résonance, ici, on a une impédance, donc Z est nulle. On se dit, ici, on a l'impédance du condensateur, ici l'impédance du condensateur, ici l'impédance de la bobine. En série, ces deux résistances, ça s'additionne. Eh bien non, n'oubliez pas que vous avez votre déphasage qui vient foutre le cirque, et du coup, les deux impédances, finalement, qui sont de signes contraires, hein, n'oubliez pas, elles sont de signes contraires, elles sont déphasées de 180 degrés, puisque la bobine déphase de plus 90 degrés, le condensateur de moins 90 degrés, donc l'écart entre les deux, c'est 180 degrés, donc les deux déphasages s'annulent et viennent annuler les deux impédances. Donc l'impédance de mon circuit série à la résonance, eh bien, elle est nulle. Et c'est normal puisque ici, j'ai 0 dB d'atténuation. Voilà. Alors, le son résonne. Voilà, j'ai coupé le deuxième micro qui, à mon avis, posait problème. Donc voilà, le circuit série. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, lorsqu'on a, évidemment, le courant est de la fréquence de résonance, ici, la bobine va commencer par remplir le condensateur. Une fois que le condensateur est plein, ici, le champ magnétique dans ma bobine est au maximum. Le courant va repartir dans l'autre sens, puisque c'est mon générateur qui est en alternatif, ce qui va vider le condensateur et qui va faire en sorte que le champ magnétique dans ma bobine va s'inverser et donc restituer la puissance emmagasinée dans le condensateur, va repasser dans la bobine, et la bobine va être rechargée à nouveau, alors que mon condensateur, il va être chargé de manière négative. Et inversement, donc c'est un mouvement ici de balancier continu entre les deux. Voilà. Et si bien que, si on mesure ici la tension entre la bobine et le condensateur, eh bien, on va avoir, une très forte intensité, 2, une très forte tension. Pourquoi? C'est qu'à chaque fois, on a toute la puissance du condensateur qui repart ici dans la bobine et qui me régénère mon champ magnétique. Et inversement, lorsque le courant change de sens. Hein, la bobine aussi, le champ magnétique dans la bobine change de sens, donc toute la puissance emmagasinée dans la bobine repart dans le condensateur qui lui se charge et qui, quand il est chargé, eh ben, il va se redécharger puisque le courant aura changé de sens à ce moment-là. C'est l'effet de résonance. Deuxième circuit, donc on avait vu le circuit série, maintenant on va voir le circuit parallèle que nous appelons, nous, plutôt le circuit bouchon. Bouchon, pourquoi? Parce qu'en fait, il coince une fréquence. Et donc, le circuit, ben, il est parallèle. Hein. Donc, les deux bobines et condensateurs sont parallèles. Et là, on va avoir le même effet que dans le circuit série, sauf que le courant, il va remplir... Alors, dans un premier temps, on va imaginer ici que la bobine a son champ magnétique qui est créé, et que... voilà. Donc, lorsque le courant ici qui alimente mon circuit change de sens, ma bobine, enfin l'énergie emmagasinée dans la bobine se décharge dans le condensateur qui se remplit dans l'autre sens, et inversement dans ce sens-là. Donc ça ne fait qu'un aller-retour continuel au rythme de la fréquence de résonance qui est alimenté ici par mon filtre. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'arrive à la fréquence de résonance ? Eh bien, toute l'énergie qui arrive ici de mon circuit, eh bien, elle reste coincée dans mon circuit parallèle. Si bien que, en sortie, eh bien, j'ai une atténuation, alors, pas infinie, enfin, en théorie infinie, en pratique non, c'est impossible, mais en tout cas, l'impédance, elle est très élevée, et donc elle peut très facilement atteindre les moins 60 dB. Et donc ça, c'est un filtre bouchon. Et dès qu'on s'éloigne de cette fréquence de résonance, fréquence de résonance, alors, vous remarquez que la fréquence de coupure, je l'appelle FC, fréquence de résonance, j'appelle ça FO, pour fréquence d'oscillation. Voilà. Dans ce schéma-là aussi, j'ai marqué FO. Donc, ce n'est pas fréquence de résonance qu'on appellerait FR, mais FO comme fréquence d'oscillation. Pourquoi ? C'est que là, mon circuit, c'est un circuit qui est appelé circuit oscillant. Parce qu'il oscille. Il fait de la sinusoïde. Et donc, là, mon filtre bouchon, il est utilisé pour bloquer le signal. Alors, vous me direz, bah ouais, il bloque, et alors, bah derrière, j'ai plus rien, c'est un peu con comme truc. Eh bien non, pas si con que ça. Pourquoi ? C'est parce que ici, j'ai une bobine. Et vous avez vu qu'on a parlé des transformateurs. Donc, finalement, je récupère... ici une tension, un signal avec une très forte tension, parce qu'évidemment toute la puissance, tout ce qui arrive ici de mon signal à l'entrée, s'il ne sort pas ici, c'est qu'il est coincé ici dans mon circuit. Et comme c'est coincé, quelque part j'ai de la tension. Et cette tension, je la récupère grâce ici à ma bobine. Et je mets un petit secondaire, et comme ça, je récupère la tension dont j'ai besoin. Ou alors, j'utilise un filtre série. Mais dans le filtre série, le problème, c'est que ça filtre bien, mais je ne sais pas récupérer la tension au milieu entre la bobine et le condensateur. J'ai un peu de mal. Je peux le faire, mais j'ai un peu de mal. Alors que là, ça se fait tout seul, grâce ici à un transfo finalement, puisque je vais utiliser la bobine ici en tant que primaire, et sur mon secondaire, j'aurai mon signal. Et en plus, cerise sur le gâteau, comme c'est un transfo, je vais pouvoir en plus régler l'impédance. Parce qu'on n'a pas encore vu ça, mais quand on va parler des amplificateurs, on va voir tous nos petits problèmes d'impédance. Parce qu'évidemment, les amplificateurs, ils sont un peu capricieux et ils veulent avoir une certaine impédance et pas n'importe quoi. Ça serait trop simple. Donc, à la résonance pour un filtre bouchon, je vais avoir une impédance très... Alors, l'impédance très élevée, elle est entre l'entrée et la sortie, on est bien d'accord. C'est pas à l'intérieur, c'est entre l'entrée et la sortie. Et là... cette impédance, elle est très élevée quand je suis à la résonance, parce que tout reste bloqué à l'intérieur. Voilà. Donc les deux circuits, le circuit bouchon ou parallèle et le circuit série. Donc on va voir quelques questions évidemment avec la fréquence de résonance, parce qu'évidemment il y a des questions, ça serait trop simple. Et donc là, on va avoir un circuit bouchon avec 32 micro-henri et 200 picofarad, et on va faire les calculs. Alors, de deux manières, soit avec la vraie formule, voilà, ou alors avec la formule simplifiée, et on va voir que, heureusement, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Je vous passe sur la webcam ma calculette. Donc, sur ma calculette, donc c'est 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, alors soit je le fais propre, c'est-à-dire 2 fois, alors pi, il faut faire fonction seconde, et ça pour avoir le pi sur ma calculette, aucune calculette n'est pareille, donc ça va être simple, multiplié par la racine carrée, elle est là. Fonction seconde, ça ouvre ma parenthèse, 32 microfarads, donc 32 multiplié par 10 puissance moins 6, c'est des micro-henri, et 200 picofarads multiplié par 10 puissance moins 12, je ferme ma parenthèse, je regarde bien que j'ai pas fait de conneries, ça me semble pas trop mal. Il faut que je ferme deux fois ma parenthèse, mais ma calculette, elle sait faire ça. Exé. Et donc, ça me fait 1,989 10 puissance 6. Donc, 10 puissance 6, ce sont des mégahertz. Donc, 1,989 mégahertz. On va dire, la réponse. Le jour de l'examen, je pense que ça sera arrondi à 2 mégas. Donc on va le faire à présent avec la formule simplifiée. Donc vous avez vu, hein, c'est pas. Alors c'est un peu long peut-être, mais une fois qu'on a bien. Alors on peut aussi utiliser 6,28. Hein, si vous êtes vraiment si vous êtes un peu fainéant, pas trop, mais si j'utilise 6,28. Et que je fais exé, vous allez voir, ça fait un 990. Donc ça change pas grand-chose. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, on va faire avec la formule simplifiée. Donc on, recommence. Donc je fais avec la formule simplifiée avec le 159. Donc 159 divisé par j'ouvre ma parenthèse, racine carrée. Je vais chercher ma racine carrée. Et donc là, j'utilise des micro-henri et des picofarads, puisque c'est l'unité de ma. Les multiples et sous-multiples que je dois utiliser dans ma formule simplifiée. Donc je fais 32 fois 200. Je ferme ma parenthèse deux fois, puisque je l'ai ouverte. Deux fois, je l'ai ouverte une fois là, une fois là. Donc, il faut bien que je la ferme deux fois, quoique ma calculette, elle sait faire, mais bon, je préfère le faire pour ceux qui sont pas à l'aise. Et donc, ça me fait 1,988. On n'est pas si loin. Et le jour de l'examen, on va vous dire la plus, enfin, souvent, on vous dit que vous allez prendre pour valeur 1 sur 2π égale 0,16. Ça veut dire que dans ce cas-là, la NFR vous dit utiliser, utiliser un arrondi. Et donc, si j'utilise le 0,16, c'est comme si j'utilisais ici le 160 sur ma calculette. Et si j'utilise 160, donc je fais suppress pour faire 160, vous allez voir, pouf, ça me fait 2. Et 2 MHz, puisque, encore une fois, je suis une. Avec ma formule simplifiée qui me donne un résultat en mégahertz. Voilà. Voilà, donc c'est relativement simple. Encore une fois, la formule, soit vous utilisez la formule simplifiée. La formule simplifiée, comme son nom l'indique, on voit bien, elle est simplifiée. Ou la formule plus complète. Alors, hop, on y arrive ou pas? Ben non, j'ai fait off, donc c'est mort. Il aurait fallu que je fasse ça. C'est pas grave. Je reviens sur mon PDF. Donc une fois qu'on a compris ça, bah malheureusement, il n'y a pas. Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il n'y a pas d'autre chose à faire que d'appliquer cette jolie formule. Donc encore une fois, la fréquence que donne la loi de Thomson, ça s'appelle la fréquence de résonance quand c'est un circuit bouchon parallèle, et la fréquence de coupure, comme pour les filtres RC, hein, ou les filtres RL, quand ce sont des passes hauts ou des passes bas. Évidemment, la valeur de la bobine et du condensateur vont avoir une grosse importance sur la fréquence de coupure, la fréquence de résonance. Et si on veut baisser la fréquence, eh bien, soit on augmente la valeur du condensateur ou la valeur de la bobine, ou les deux, évidemment. Ça marche mieux avec les deux. Et inversement, pour augmenter la fréquence, pour monter en fréquence, on est obligé d'avoir des composants plus petits, donc des valeurs de bobine plus petites ou des valeurs de condensateur plus petits. Lorsque l'on a des noyaux ferrites, hein, plongeant dans les bobines, pour augmenter la fréquence, il faut sortir le noyau de la bobine pour faire baisser sa valeur. Si vous le rentrez dedans, automatiquement, ça vous donne plus de valeur à la bobine, et donc la fréquence de résonance du condensateur, du circuit oscillant. Et bah du coup, elle va baisser. De même, même chose pour le condensateur. Il suffit pour augmenter la valeur de la fréquence, il faut, dans le cas de mon condensateur variable, faire en sorte qu'il y ait moins de plaques en vis-à-vis. Et inversement, plus on rentre les plaques du condensateur en vis-à-vis, plus la fréquence de résonance baisse. Rappelez-vous aussi que il y a une racine carrée dans ma formule, ce qui veut dire que si on ne change pas la valeur de la bobine ou du condensateur, si on veut doubler la fréquence, alors soit on la multiplie par deux ou on la divise par deux, eh bien il faudra multiplier par deux ou par quatre ou diviser par quatre la valeur de la bobine ou du condensateur, puisqu'on a l'effet de cette fameuse racine carrée dans la formule de Thomson. Hein, donc n'oubliez pas ça, c'est que voilà, c'est pas linéaire, c'est pas parce que vous aurez doublé la valeur du condensateur que la valeur du circuit oscillant, hein, je double la valeur, donc normalement je diminue par la racine carrée de 2, finalement, la valeur de, donc 70% de la valeur de ma fréquence de résonance, ou la fréquence de coupure, peu importe. Donc n'oubliez pas ça, l'effet de la racine carrée dans ma formule. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, vous remarquez, dans les circuits RC. Dans le circuit RC, on n'avait pas cet effet-là. Hein, puisque la formule du circuit RC, c'est 1 sur 2 pi RC. Donc on n'a pas cette racine carrée qui vient foutre le cirque dans le calcul de la fréquence de coupure des filtres RC, et ça marche de la même manière avec un filtre RL. Alors les courbes de filtres, on en a parlé un peu rapidement tout à l'heure, les courbes des filtres, elles sont représentées sous forme de graphiques, et ces graphiques, la plupart du temps, tout au moins quand on a un analyseur de spectre, on verra après ce que c'est, les échelles ne sont pas graduées de manière linéaire, elles sont graduées de manière logarithmique. Je m'explique. Déjà, les atténuations, elles sont exprimées en décibels. Par principe, le décibel, il est logarithmique. Donc, si vous avez quelque chose ici de linéaire en termes de décibels, même si sur mon schéma, c'est pas très linéaire, enfin bon, supposons que c'est linéaire ici sur mon schéma, pour que j'ai quelque chose de cohérent, il faut que j'ai la même analyse sous forme logarithmique de ma fréquence. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ma fréquence de coupure, là voilà, j'ai 3 dB, tout va bien. Alors ça, c'est un filtre passe haut, puisque l'atténuation, elle est faite avant ma fréquence de coupure. Et vous remarquez qu'ici, à chaque fois que je double la fréquence, ici, j'ai la même distance ici sur mon schéma. Donc ça, c'est typiquement un schéma dit logarithmique. C'est-à-dire que je multiplie par 2 ma fréquence, et pour autant, j'ai toujours ici le même espacement. Inversement, je divise par 2 ma fréquence, donc ici 1/2, ici 1/4, et encore une fois, j'ai le même écart ici entre 1/4 et 1/2, 1/2 et 1, 1 et 2, et 2 et 4. Donc ça, c'est une échelle dite logarithmique pour les fréquences, et quand je représente mon filtre de cette manière-là, eh bien je vais m'apercevoir que ici la pente de mon filtre, enfin, tout au moins alors ce qui est en pointillé là, c'est ce que l'on constate finalement à l'analyseur de spectre. Et les traits ici que j'ai mis là, bah, c'est la pente théorique finalement de mon filtre. Donc je vais avoir deux droite qui se coupe pile poil ici à la fréquence de coupure, alors que la courbe réelle, elle passe par mon moins 3 dB. D'accord ? Et lorsque je suis, alors là j'ai un filtre passe haut, et lorsque je suis au-delà de ma fréquence de coupure, ça augmente toujours un petit peu, et ça augmentera toujours un petit peu sans jamais atteindre ici le 0 décibel, sans jamais l'atteindre et sans jamais le dépasser d'ailleurs. C'est impossible d'avoir plus de puissance à la sortie qu'à l'entrée, puisque ce n'est pas un amplificateur, c'est un filtre. Donc sinon, encore une fois, il faut déposer tout de suite un brevet, il y a de l'argent à se faire. Et inversement, lorsque je suis avant la fréquence de coupure, eh bien je vais être ici asymptotique à cette droite qui est la pente. Et cette pente là, j'ai essayé de la quantifier. Voilà, elle est sur le cours j'ai essayé de la quantifier. Elle serait de 40 dB par octave. Voilà, parce que je l'ai dessiné comme ça. C'est mon dessin qui a fait que. Mais 40 dB par octave, ça veut dire qu'elle aurait 7 éléments actifs. Alors, par exemple, 3 bobines et 4 condensateurs. C'est un exemple, c'est pas automatiquement. Mais en tout cas, 7 éléments actifs, c'est un certain nombre de bobines et un certain nombre de condensateurs, et cet ensemble fait 7 éléments actifs. Donc c'est voilà. Et généralement, il y a à peu près autant de bobines que de condensateurs dans un filtre. À peu près autant. Alors attention, c'est pas parce que vous allez compter le nombre de bobines et de condensateurs dans un filtre que ça va vous donner les propriétés du circuit. Ça serait trop simple. Parce que vous avez des bobines et des condensateurs qui, ne jouent que... forment un ensemble. On verra tout à l'heure l'exemple typique du filtre ampli. filtre en pile, ceux qui connaissent un peu, on va le voir, il y a deux condensateurs et une bobine, eh bien, pas de chance, il ne fait pas 18 dB par octave, celui-là. Il va en faire que 12. Pourquoi ? Parce que les deux condensateurs que l'on a de chaque côté de la bobine, en fait, ils ne forment qu'un seul condensateur. Électriquement, ils n'en forment qu'un seul. Et donc, le circuit n'est qu'un circuit à 12 dB. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça de dire je compte le nombre de composants. Mais ça, c'est pas au programme de l'examen, je vous rassure. Ce qui est au programme de l'examen, c'est le filtre, donc les quatre filtres qu'on a vus avant, donc le filtre, le passe-bas, le passe-haut, le filtre série, le filtre bouchon, ou le filtre parallèle. Le filtre série s'appelle aussi le filtre passe-bande, et le filtre bouchon s'appelle aussi le filtre coupe-bande. Voilà, c'est les termes, mais généralement on ne les utilise pas trop ces deux termes-là. Mais vous comprenez bien que passe-bande, ben, ça laisse passer, et coupe-bande, ben, ça la coupe. Que, par association, vous devriez trouver de quel filtre on parle quand on donne ces noms-là. Alors, jusqu'à présent, donc, on a vu nos quatre filtres, mais avec des composants parfaits, c'est-à-dire une bobine où on n'a aucune résistance, de vraie résistance, hein, la résistance du fil et le condensateur parfait aussi, parce que voilà, tous les contacts sont parfaits, donc aucune pas de perte dans les contacts, même chose dans la partie je reviens pour vous montrer les endroits où on peut avoir des soucis. Je reviens ici sur mon petit circuit oscillant. Donc la résistance du fil de la bobine, et puis les résistances ici de fil, la résistance ici sur les frotteurs, parce que j'ai des frotteurs, là, oui, ce sont mes frotteurs, voilà, ils sont là. Donc ici, vous avez la résistance ici sur le frotteur qui qui est connecté à la partie mobile ici de mon condensateur, et puis vous avez aussi des résistances qui devraient être très importantes, mais qui peuvent ne pas l'être, ici sur mon isolant. Mon isolant, il n'est pas parfait, et donc vous pourriez avoir des pertes, parce que mon isolant, il n'isole pas, justement. Et donc, il n'a pas une résistance infinie, il a une résistance inférieure à l'infini. Alors, dans les filtres que l'on va voir après, il y a Zeronimo qui pose une question. Dans ces filtres qu'on va voir après, mais c'est à la fin de cette séquence, en plus, ce n'est pas du tout le problème de l'examen. Effectivement, les bobines et les condensateurs, ils ont ils doivent être placés d'une certaine manière et avoir des valeurs calculées avec des formules super compliquées qui ne sont absolument pas à connaître pour l'examen. Je vous rassure. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a des superbes petits logiciels qui s'amusent à calculer ça tout seul. Parce que là, c'est plus la peine d'essayer d'utiliser la loi de Thomson, ça ne marche pas. Hein, notamment pour les filtres... comment il s'appelle ? Bon, peu importe, on retrouvera tout à l'heure. Les Butterworth. On les verra tout à fait, tout à la fin. Mes composants ne sont pas parfaits, et comme ils ne sont pas parfaits, alors la plupart du temps, quand même, c'est la bobine qui pose problème, donc je reviens sur mon PDF, c'est ma bobine qui pose problème, mais pas que, hein. Cette bobine, eh bien, elle a une résistance, alors, de deux ordres. Premier ordre, c'est la résistance du fil que l'on mesure à l'ohmmètre. Généralement, celle-là, c'est pas très grave. On va voir tout à l'heure dans ma manip, La résistance, je l'ai mesurée à l'ohmmètre, elle fait 1,5 ohm. Donc, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, il y en a un petit peu. Le problème, c'est que comme je suis en haute fréquence, et plus je vais monter en fréquence, plus je vais avoir mon effet de peau sur ma bobine. Et donc, plus la fréquence augmente, plus l'effet de peau augmente, et donc plus cette résistance un peu parasite va m'embêter. Alors, en même temps, on est un peu, c'est un peu contrecarré par le fait que plus on monte en fréquence, donc plus la valeur de la bobine est faible, et donc plus le fil de la bobine est court. Et donc, en théorie, il y a moins de risques qu'il y ait de l'effet de peau. Mais voilà, c'est pas gagné à tous les coups. Et de toute façon, au niveau de mon condensateur, on a toujours le même problème au niveau des frotteurs. Donc, quelquefois, c'est plutôt le côté frotteur qui va, donc ce qui fait la liaison entre la partie mobile et la partie fixe de mon condensateur variable, ça va poser problème. C'est pour ça que dans les montages, souvent, on met un condensateur fixe, et ce que l'on fait varier, c'est la valeur de la bobine en introduisant à l'intérieur un noyau ferrite. Et donc, du coup, on fait varier la valeur de la bobine. Et du coup, on évacue le problème de résistance, entre guillemets, de mon condensateur variable, puisqu'il n'est plus variable. Et donc là, je vais avoir, alors vous remarquez que je vais utiliser trois circuits. Pourquoi trois circuits? Bon, déjà le série, on voit bien, c'est ma valeur de ma résistance que je mets en série. Ça, c'est facile. Mon circuit bouchon, eh bien, c'est donc la valeur, la résistance de la bobine ou du condensateur qui va se mettre en série avec mon ensemble. Voilà. Et enfin, j'ai un troisième schéma un peu particulier. C'est ce schéma-là qui montre en fait le défaut d'isolement de mon condensateur. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ici un condensateur avec un isolement infini entre mes deux plaques, eh bien, mon isolant du condensateur n'est pas parfait, et au lieu de faire une résistance infinie, comme il devrait le faire, eh bien, il me fait une résistance de 12,5 ohms. Alors, bon, 5 kilo-ohms. Bon, c'est quand même une belle résistance, mais voilà, c'est pas l'infini. Et donc, on va voir quelle est la conséquence sur mon circuit. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, lorsqu'on a un circuit RC, en fait, cette résistance en série ou en parallèle, là, elle ne va pas avoir d'impact ni sur la fréquence de coupure ni derrière sur l'atténuation. Ça change un petit peu, mais c'est pas catastrophique. C'est juste que la pente de mon circuit, la pente qui est là, elle sera plus contre la droite là, elle sera légèrement en retrait, mais c'est pas une catastrophe. Le plus catastrophique, c'est quand on a un circuit bouchon ou un circuit série. Donc ici, on a un circuit série, et là, ici, on a deux circuits bouchons. Alors ça, c'est le circuit bouchon réellement, et celui-là, pour le différencier, j'ai appelé ça circuit parallèle. Et donc, à cause de cette résistance ici, eh bien, évidemment, dans mon circuit série, c'est plus zéro, puisque maintenant j'ai une résistance en série, et donc autant tout à l'heure mes deux impédances ici s'annulaient l'une l'autre puisque déphasées de 180 degrés, là j'ai une résistance en série, donc là ça s'annule plus, Et donc, dans ce cas-là, l'impédance à la résonance devient égale à la résistance. Puisque ça, l'ensemble bobine condensateur, c'est zéro. Voilà, ça, ça ne change pas. Mais par contre, c'est en série avec une résistance de 20 ohms. Et cette résistance de 20 ohms, ben, je ne peux pas l'annuler. Donc, l'impédance à la résonance est égale à la résistance. Oui, j'ai oublié de dire aussi, vous avez remarqué que je vais utiliser les mêmes valeurs de bobine et de condensateur. 25 micros 100 picots, 25 micros 100 picots et 25 micros 100 picots. Ce qui veut dire que je vais avoir la même fréquence de résonance. C'est-à-dire que ma fréquence de résonance, quelle que soit la valeur ici de la résistance que je mets en série ou en parallèle, eh bien, elle ne va avoir aucune incidence sur ma fréquence de résonance. Elle va juste avoir une incidence sur l'impédance et donc le pouvoir de couper ou de laisser passer le courant. Et donc, si vous voulez avoir plus d'explications sur le pourquoi de la formule, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très intéressés par ça, ils reviennent dans le cours. Dans le cours, il y a la démonstration comment on arrive à ça, à cette valeur. Donc l'impédance, dans le cas de mon circuit bouchon, c'est égal à L divisé par C multiplié par R. Encore une fois, Z en ohm, L en ri, C en farad et R en ohm. Tout simplement. Et donc, ça détermine l'impédance qui n'est plus infinie. Enfin, elle serait infinie si, ici, R est égal à 0. Si R est égal à 0, comme il est ici au dénominateur, eh bien, quelle que soit la valeur de C, ça me donne donc 0, et L divisé par 0, ça me donne l'infini. Donc, c'est vrai, Z est égal à l'infini si R égale 0. Et à partir du moment où c'est pas égal à 0, et donc dans la vraie vie, quoi, eh bien, ici, on a l'impédance n'est plus infinie, mais est égale à cette formule-là. Une formule à apprendre. Évidemment, celle-là, vous la prenez, mais elle est... Voilà, il n'y a pas vraiment à apprendre. C'est juste à reconnaître le circuit et à se dire, ah, ça, c'est égal à la résistance ici. Et puis enfin, dans mon circuit parallèle, eh bien, finalement, l'impédance ici est égale à 0, puisque ici, mon ensemble bobine condensateur, ici, ça, c'est infini. C'est une impédance infinie. Donc, vous reprenez les cours sur ce... Enfin, quand on avait vu les groupements de résistance, si ici, c'est infini, eh bien, en parallèle, une résistance infinie et une résistance de 12,5 kilo-ohms, eh bien, là, ça me donne 12,5 kilo-ohms. Donc encore une fois, dans ce cas-là, Z égale R. Ok, on continue. Donc ça, c'est pour vous rappeler l'effet de peau. Et ceux qui ont oublié qu'on avait parlé de l'effet de peau il y a quand même un peu de temps maintenant. Donc je vous avais sorti une formule relativement simple. Là, je vous donne la vraie formule. Mais encore une fois, c'est en italique, donc je vous avais donné cette formule-là quand on avait fait quand on avait parlé de la résistivité des fils. Et la vraie formule, c'est celle-là. Et donc le mu R, là, il va être défini par le fil que l'on va utiliser. Voilà, mais ça revient à ça quand on utilise du cuivre, ça revient à ça. Et l'idée, c'est qu'on avait dit que ça ne passait que dans la Alors, ma prof de maths m'a dit que c'est pas possible de diviser. Si, c'est possible de diviser par zéro. Le problème, c'est que le chiffre, du coup, c'est un chiffre qui, la calculette, elle va pas savoir faire parce que c'est l'infini. Et donc, la calculette, elle sait pas faire. L'infini, elle connaît pas. Et si vous le faites sur Excel, c'est pareil. Excel ne connaît pas l'infini. Il connaît zéro, mais pas l'infini. Et donc là, mon histoire des faits de peau, finalement, de dire que le courant ne passe qu'en superficie, en fait, c'est plus compliqué que ça. Cette épaisseur-là, c'est l'épaisseur où passe 63% du courant, et à chaque fois qu'on reprend une épaisseur de la même épaisseur, justement, on divise encore par 63. C'est un petit peu, c'est la même courbe que ce que l'on avait vu quand on avait vu la charge et la décharge du condensateur. Voilà. Donc, voilà d'où vient cette. Et donc là, au final, on a l'impression que le courant ne passe que dans cette épaisseur-là et que derrière, il ne se passe rien. En fait, c'est beaucoup plus. C'est un flux continu, quoi. C'est quelque chose qui est continu. Par contre, à l'intérieur, il se passe quasiment rien. Donc, en courant continu, là, tout passe. Donc, à 50 Hz, on va dire. Non, à 0 Hz, tout passe. À 10 kHz, il y a un peu moins qui passe au milieu. Et à 1 MHz, tout passe autour. Voilà, donc c'est pour vous donner, pour bien vous préciser ça. Encore une fois, pas de questions à l'examen là-dessus, et heureusement, mais ça c'est ceux qui veulent aller un peu plus loin dans les études. Eh ben, on en arrive aux questions, aux exemples. Donc, l'exemple de mon circuit de mes trois circuits que j'ai présentés tout à l'heure. Donc mon circuit série, je n'ai pas de calcul à faire là, puisque c'est 20 ohms. Le circuit numéro 3, donc parallèle, même chose, c'est 12,5 kilo-ohms. Pas de calcul. En revanche, l'impédance à la résonance du circuit bouchon, là j'ai un calcul. Et on va se le faire à la calculette. Hop, on. Donc, la formule, je rappelle, c'est L divisé par R, enfin L divisé par, j'ouvre ma parenthèse, R multiplié par C. Donc, L, c'est 25 microfarads, donc 25 multiplié par 10 puissance moins 6. Que je divise par, j'ouvre ma parenthèse, la valeur de la résistance, donc 20 ohms, multipliée par la valeur du condensateur, donc 100, multipliée par 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse et l'impédance est égale à, ah bah oui, si je fais annuler, ça va pas aller. C'est raté. On recommence. 25 multiplié par 10 puissance moins 6 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 20 ohms multiplié par 100 picofarad, donc 10 moins 12, je ferme ma parenthèse, exé. Et ça me donne donc 1,25 10 puissance 4, donc 12 500 ohms. Alors, coup de chance, c'est finalement, mais c'est fait exprès aussi, c'est finalement ici la valeur de ma résistance en série. C'est-à-dire que ma résistance ici de 20 ohms, c'est comme si j'avais une résistance ici de 12,5 kilo-ohms en parallèle. Et donc, il y a une formule qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, ce qui veut dire que si vous avez ici une résistance un défaut d'isolement du condensateur, on va dire ça comme ça, vous pouvez le transformer en résistance série à additionner avec la résistance du fil de mon circuit. Et comme ça, ça vous simplifie la vie. Donc il y a un passage comme ça, il y a une formule qui permet de transformer l'un à l'autre. Voilà. Ce que l'on peut faire aussi, c'est calculer la fréquence de résonance. On la verra tout à l'heure parce qu'on va en avoir besoin. Donc j'en profite d'être là pour calculer ma fréquence de résonance de mon circuit. Ça refait un autre exercice. Et donc là, je vais utiliser ma formule simplifiée parce que je suis un grand fainéant. Donc je fais 160 et super simplifié, parce que là du coup je prends même pas 159, je prends 160, divisé par, j'ouvre ma parenthèse, racine carrée, donc fonction seconde, voilà, 25 micros multiplié par 100 picofarad, donc ça c'est super simplifié, et c'est égal à 3,2 MHz. Donc c'est la fréquence de résonance de mon circuit 3,2 MHz. On va en avoir besoin tout à l'heure, donc je préfère le mettre tout de suite. On en arrive au facteur Q. Alors le facteur Q, c'est ce qui détermine la qualité du circuit. Et en fait, ça dépend finalement de la valeur de ma petite résistance, plus cette résistance série, donc ma résistance liée à mon effet de peau est importante, moins mon circuit est efficace parce que il fait pas sa fonction de filtre. Et donc le facteur Q, c'est ce qui va déterminer finalement est-ce que mon circuit est efficace ou pas. Alors, cette résistance parasite a une conséquence, il n'y a aucune conséquence, la résistance parasite n'a aucune conséquence sur la fréquence de résonance ou la fréquence de coupure. Dans la loi de Thomson, on ne parle pas de cette résistance et elle vient foutre le bordel, elle vient détériorer la qualité du circuit, mais elle ne change absolument pas la fréquence de résonance. Par contre, elle va jouer sur le facteur de qualité. C'est-à-dire que plus vous allez avoir cette résistance importante, cette résistance parasite importante, plus votre circuit va être pourri. Voilà, tout simplement. C'est tout. Et on va le voir ça concrètement tout à l'heure quand on fera les manips. Et donc, pour déterminer ce facteur Q, donc est-ce que mon circuit est un circuit pourri ou pas, eh bien, on détermine. Alors, je vous passe la manière de le calculer, parce que c'est encore une fois, ce qui est important, c'est de voir ici le tableau récapitulatif. Puisque le facteur Q, ça va être le rapport entre l'impédance et la résistance. Impédance, donc à la fréquence de résonance, divisée par la résistance. Et donc l'impédance, elle est là. Vous les avez là, on les a calculés tout à l'heure. Et le facteur Q, donc c'est l'impédance divisée par la résistance. Donc c'est cette valeur-là que l'on va utiliser pour le circuit bouchon. Pour le circuit série, vous remarquez que c'est le même calcul, le facteur Q. Et pour le circuit parallèle, alors j'ai pas vu de question à l'examen dessus, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. Mais voilà. Est-ce que ça va rester comme ça? Enfin, en tout cas, les quelques questions que j'ai vues, c'est le facteur Q du circuit bouchon et du circuit série, et coup de chance extraordinaire. Ah, on voit plus le cours, merde. Je ne suis pas repassé sur le PDF. Coup de chance extraordinaire, on utilise la même formule, pardon. Donc, il n'y a qu'une seule formule à apprendre, finalement, c'est ça. C'est racine carrée de L divisé par C, le tout divisé par R. D'accord ? Et je vous passe ici sur l'explication, comment on en arrive là. Parce que sinon, on s'en sort pas. Si ça vous intéresse, vous reprenez le cours. Pour ceux qui sont pour les matheux, vous allez comprendre ça. Les autres, il n'y a pas grand intérêt. Ce qui est important, c'est ces formules ici d'impédance. Alors encore une fois, finalement, il n'y a qu'une seule impédance à calculer, c'est le circuit bouchon. Et pour le facteur Q, eh bien, c'est la même formule pour le circuit bouchon et pour le circuit série. Et le circuit parallèle, bah finalement, on ne l'utilise pas. Enfin, tout le monde, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, voilà. Donc, facteur Q. Et concrètement, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que lorsque j'ai une résistance nulle et que j'arrête... alors, ça, c'est un circuit bouchon. Et lorsque j'arrête... mon générateur, eh bien, mon oscillation, finalement, elle continue. Puisqu'il n'y a rien qui l'arrête et toute l'énergie, je vous ai déjà dit que la bobine et le condensateur emmagasinaient l'énergie, mais ne chauffaient pas, donc ne perdaient pas d'énergie. Donc, mon circuit oscillant, à partir du moment où il commence à générer, ben, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Puisque bah, si la résistance est nulle, bah, le truc il continue à tourner. Hein? Et donc ça, c'est résistance nulle. Évidemment, c'est un cas d'école, parce que ça n'existe jamais. En revanche, quand on a une résistance, alors pas génie faible, parce que, bah, voilà, faut pas non plus qu'elle soit énorme, parce que sinon ça s'atténue tout de suite. Et si j'ai une résistance assez faible, eh bien ça s'atténue. D'accord ? Et donc ça, c'est cette longueur ici de temps qui va voir le signal complètement disparaître, ça va dépendre finalement de ce facteur Q. Et donc plus le Q est faible, et plus l'oscillation du circuit s'amortit vite. Et plus le Q est fort, plus le circuit est performant, et donc moins ça met de temps, enfin, et donc plus ça dure, mais ça durera jamais comme ça à l'infini, puisque résistance nulle, c'est impossible. Donc ça c'est une tension dans le cas du circuit bouchon. Quand je suis dans un circuit série, c'est pas une tension que je vais récupérer, c'est une intensité, c'est une surintensité. Puisque à l'intérieur de mon circuit, c'est là où je suis un peu gêné de récupérer cette énergie, c'est qu'entre bobine et condensateur, je peux rien mettre là. Je peux même pas mettre un multimètre pour mesurer l'intensité, parce que automatiquement, ça viendrait perturber mon circuit et diminuer mon facteur Q. Donc, dans le cadre de mon circuit bouchon, ça s'appelle un facteur de surtension. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Dans le cadre d'un circuit série, ça s'appelle un facteur de surintensité. Alors, peut-on dire que l'on a aussi besoin de R ? Non, surtout pas. On n'a pas besoin de R. R, on cherche systématiquement à le rendre le plus petit possible. Et donc, même petite quantité, de toute façon, il y en aura toujours une petite quantité. Dans la vraie vie, on aura toujours une petite quantité. Mais l'idéal, c'est de ne pas en avoir du tout. Mais malheureusement, c'est un composant idéal, et composant idéal, il n'existe pas. Alors, donc, le facteur Q de mon circuit bouchon, on va se le faire à la calculette, puisque on a vu la formule, on se le fait à la calculette. À la calculette, allons-y. Alors, racine carrée de fonction seconde, racine carrée, j'ouvre ma parenthèse, L divisé par C, 25 multiplié par 10 puissance moins 6, divisé par C, 100 multiplié par 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse et je divise par R, donc mes 20. Et là, je trouve un Q de 2,5 10 puissance 1, donc 25. 25. Alors, ça veut dire quoi, un Q de 25? C'est pas extraordinaire, hein, mais c'est déjà pas mal. Je reviens sur mon PDF. Ça veut dire que si je mets un circuit à la fréquence de résonance, par exemple de 1 volt, aux bornes de mon circuit bouchon, je vais me retrouver à l'intérieur du circuit bouchon avec 25 volts. Tout simplement. Et donc, même chose pour ce même circuit, calculer donc le facteur de surintensité. Si j'ai 1 ampère dans un circuit série, avec un facteur Q de 25, je vais arriver avec une intensité entre bobine et condensateur de 25 ampères. Efficace, évidemment, dans les deux cas. Voilà ce que veut dire concrètement le facteur Q. Et évidemment, si on a une résistance très faible, donc infinie, eh ben on va se retrouver avec une tension infinie. Vous pouvez vous douter qu'une tension infinie, je ne vois pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. Et en tout cas, ça peut chatouiller les doigts si on met ses doigts dedans. Voilà, donc ayez ça en tête. Hein. Et donc de dire R, et il y a toujours une petite résistance quelque part, et donc du coup, ce coefficient de surtension ne peut pas être infini. Alors, on en arrive à déterminer le facteur Q d'un circuit et avec une autre caractéristique, c'est sa bande passante. C'est-à-dire que le facteur Q détermine le coefficient de surtension, donc la valeur de la tension, un coefficient multiplicateur de tension, si on veut. Mais deuxième chose, ça détermine aussi la bande passante à moins 3 dB. Revoilà nos moins 3 dB, qu'on avait un peu abandonné, une fois qu'on avait vu les filtres passe haut et passe bas. Ce facteur Q, ça détermine aussi la bande passante ici à moins 3 dB. Ici, c'est ma fréquence d'oscillation. Et je regarde quelle est l'atténuation de mon filtre. Donc je regarde, je fais varier ma fréquence de chaque côté de ma fréquence d'oscillation, et je regarde quand j'ai une atténuation de moins 3 dB. Concrètement, je regarde lorsque la tension de mon circuit est inférieure de 70%, enfin 71% précisément, hein, 70,7%, donc racine de 2 sur 2, encore une fois, et racine de 2 sur 2 en tension, ça correspond à moins 3 dB en puissance. Et donc, cette bande passante à moins 3 dB, là, cet écart de fréquence, eh bien, quand je divise ma bande passante, enfin, la bande passante, mince, vais arriver. Le fréquence de résonance divisée par Q, ça va me donner ma bande passante. Donc typiquement là, donc mes 3,18 ou 3,20, 3,18 si je prends la formule précise avec 159 divisé par etc. J'arrive à 3,18 MHz, mais 3,2 si je prends la formule simplifiée. Eh bien lorsque je prends par exemple cette formule simplifiée, ça me fait 3,2 divisé par 25 et ça me donne donc 125 kHz. C'est-à-dire que la largeur ici entre mes deux fréquences ici, ça me fait ici 125 kHz. Et la fréquence de résonance, alors elle n'est pas pile poil au milieu, mais elle s'en rapproche. Elle n'est pas pile poil au milieu parce que c'est une fonction de Gauss, et la fonction de Gauss, elle a une tronche un peu particulière. Donc c'est vrai ça si on a une échelle ici logarithmique, et si on n'a pas l'échelle logarithmique, c'est un peu déformé quand même. Et ça c'est ce qui déterre, parce que c'est ça qui est important, c'est pas trop le coefficient de surtension qui va vous intéresser, c'est la bande passante de votre circuit. C'est-à-dire que votre circuit, là, il va avoir en largeur de bande 125, c'est-à-dire qu'il va avoir une porte d'entrée de 125 kHz, ce qui est quand même assez large, surtout moins quand on est à une fréquence comme ça. Parce qu'évidemment, plus on va monter en fréquence, plus on va chercher à avoir un facteur Q important, parce que sinon, vous avez tout le monde, enfin toute la bande, vous allez recevoir toute la bande. Si vous laissez faire le filtre tel que, vous n'allez pas pouvoir sélectionner un contact, un signal d'une seule station. Vous allez en avoir une foultitude. Hein, vous allez avoir l'intégralité de la bande, quasiment. Donc, et ce n'est qu'à moins 3 dB. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus large pour avoir une atténuation meilleure. Alors, on va voir maintenant les atténuations d'autres filtres que des filtres LC simples à deux éléments. Et donc, voilà, par exemple, alors, la première chose qu'on va voir, il n'y a pas de question à l'examen là-dessus, c'est comment mesurer finalement les courbes d'un circuit. Donc on va utiliser soit un analyseur de spectre, hein, ça c'est, je vous en ai mis un là. Alors j'en ai pas directement ici, il y en a un au Radio Club que je n'ai pas encore ramené, il faudra que je le ramène. Alors, c'est pas réellement un analyseur de spectre, c'est un analyseur en FFT. Donc je vous expliquerai ça le moment venu, mais ça ressemble étrangement quand même à un analyseur de spectre. Ça ressemble un peu, même si c'est pas exactement un analyseur de spectre. Ou alors, on utilise aussi ce qu'on appelle un vobulateur, c'est-à-dire que c'est un générateur dont la fréquence est variable, et cette fréquence variable, donc elle est générée, on a aussi une tension qui est générée en fonction de la variation de fréquence. Cette tension, on la rentre sur un oscilloscope, et comme ça l'oscilloscope devient un analyseur de spectre. C'est-à-dire que au lieu de mesurer quelque chose en fonction du temps, il va mesurer quelque chose en fonction de la fréquence. Hein, donc je vous ai mis le schéma ici, je vais vous l'agrandir un petit peu. Alors, s'il veut bien s'agrandir. Que je décale, voilà. Ah.
Donc là, voilà. Donc vous avez le filtre analysé ici, donc un filtre bouchon là en l'occurrence. Donc j'envoie ici le signal ici sur mon circuit bouchon, signal dont la fréquence varie. Donc comme ça, ici, la tension aux bornes de mon circuit bouchon va varier. Je la rentre sur une entrée de mon oscilloscope. Et la deuxième, ça s'appelle la rampe. Et là, finalement, c'est une tension qui est fonction de la fréquence générée sur mon circuit oscillant. Et donc, comme ça va me permettre de transformer mon oscilloscope, donc avec un balayage dans le temps, avec un balayage en fréquence. Voilà, donc c'est une. Alors, mais par contre, il faut que l'oscilloscope il ait cette possibilité de visualisation avec une rampe. Et c'est pas tous les oscilloscopes qui le font, hein. Celui-là, je ne suis même pas celui que j'ai là, je ne sais même pas s'il le fait. J'ai pas vu. Ah bah si, il a une entrée. Si, il a une entrée externe, donc il peut le faire. Voilà, donc celui-là peut le faire, mais voilà, faut le positionner d'une certaine manière. Puis de toute façon, j'ai pas de globulateur, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà. Et donc, quand on a, par exemple, un filtre avec deux cellules LC qui sont légèrement décalées en fréquence, ça va me donner enfin, donc deux circuits LC qui sont l'un derrière l'autre, hein, tout simplement. Ça va me donner LC série, du coup. Ça va me donner quelque chose comme ça, puisque comme ils ne sont pas exactement sur la même fréquence, il va y avoir ici deux bosses, hein, puisque ici j'ai une bosse ici qui correspond au premier circuit, ici une deuxième bosse, voilà, et l'ensemble va me donner ici cette courbe verte ici qu'on a là, d'accord? Et alors, on va revenir, vous l'avez aussi sur le cours, hein, ce truc-là. Voilà. Et donc là, ce qu'on appelle le taux de sélectivité ou la bande passante. Alors déjà, la bande passante, c'est ici l'écart que j'ai entre ces deux fréquences où j'ai une atténuation ici de 3 dB. Vous remarquez que là, ce n'est pas complètement droit. En fait, il y a deux pics, hein. Il y a deux pics où on va avoir très peu d'atténuation. On n'aura pas 0 dB, mais on aura légèrement en dessous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'atténuation par rapport ici à mon minimum, qui est fixé à 0 dB. Et ici, donc, mon 3 dB. Donc, j'ai ici ma largeur de bande. Alors, qui n'est pas exactement le facteur Q, hein. Le facteur Q, c'est pas encore exactement ça, mais enfin, en tout cas, ça c'est ma largeur de bande passante. Et ici, mes moins 60 dB, c'est ce qu'on appelait ma réjection ultime, on en a parlé tout à l'heure, et c'est donc la courbe ici où j'atteins ici mes 60 décibels d'atténuation. Et lorsque je fais le rapport de cette réjection ultime divisée par la bande passante, ça va me donner mon taux de sélectivité. Ou inversement, lorsque je divise ma bande passante divisée par la réjection ultime, ça va me donner le facteur de forme. Le facteur de forme, il est en pourcentage, donc il est inférieur à 100%, alors que le taux de sélectivité, qui est supérieur à 1, c'est le rapport inverse. D'accord? Et il y a des questions d'examen, évidemment, qui vous présentent comment dire, des réjections, et on vous demande quel est le taux taux de sélectivité ou le facteur de forme, selon. Alors, ça, c'est une question de mon cru, qui est un peu tordue, mais bon, voilà. Donc ça, c'est plutôt une représentation d'un analyseur de spectre. Et donc, on demande là la largeur de la bande à moins 13 dB. Et donc, les moins 13 dB, ici, vous avez 39 dBm d'atténuation. Donc, les moins 13 dB, c'est ici. Donc, à moins 26 dBm. Et donc dBm, donc ce sont les décibels milliwatts. Et donc, ça, c'est la puissance, ici, du signal en fonction de la fréquence. Ici, la fréquence qui est indiquée là. Et donc, ici, ma largeur de bande à moins 13 dB, c'est ici 600 moins 540. Donc, c'est 60. Et non pas ici 620 à 520, donc 100, parce qu'évidemment, la réponse 100, elle va être proposée. Mais la question, là, c'est bien la bande passante à moins 13 dB. Généralement, la bande passante, elle n'est pas à moins 13, elle est à moins 3. Voilà. Mais ça, c'est pour vous dire, vous donner tout ce que l'on peut, une fois qu'on a ces éléments-là. Alors, pour augmenter la largeur de bande, alors surtout pas rajouter une résistance, parce que si on rajoute une résistance, on est certain la plupart du temps, dans ce genre de circuit, il y a plusieurs circuits qui sont l'un à côté de l'autre. Donc en fait, il suffit de changer la fréquence d'un ensemble bobine condensateur pour que ça élargisse la bande. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir ici les flancs les plus raides possibles pour être certain de ne recevoir qu'une et une seule bande de fréquence. C'est ça l'important. C'est d'avoir ici une largeur de bande suffisante pour recevoir le signal qu'on veut recevoir. Hein. Si c'est de la voix, ça doit faire 3 kHz. Si c'est de la télévision, c'est un peu plus large, évidemment. Mais donc, ça doit être adapté au signal qu'on veut recevoir. Et au-delà de ce que l'on veut recevoir, ça doit être le plus droit possible pour éviter d'avoir de recevoir des fréquences adjacentes. Voilà. Mais en tout état de cause, on rajoute pas de résistance, on fait en sorte d'ajuster les valeurs de L, enfin les différents circuits composant le filtre. Typiquement, ça, c'est une question d'examen. Donc, quel est le taux de sélectivité dans ce cas-là? L'atténuation à moins 3 dB ici, on voit ici que c'est 10 kilos, enfin 10, je ne sais pas quoi, je pense que c'est plutôt 10 kHz, enfin bon, voilà, pourquoi pas. Donc c'est 10, et ici la réjection ultime, c'est 200, donc ce que je fais, c'est 200 divisé par 10, et ça me fait donc 20, ou l'inverse, c'est-à-dire 5%, si je veux le taux de sélectivité. Encore une fois, taux de sélectivité, c'est pourcent, et donc c'est inférieur à 100%, et donc c'est le plus petit divisé par le plus grand, et le facteur de forme, c'est l'inverse, donc c'est le plus grand divisé par le plus petit. Et ce qui est très important, c'est que par nature, un circuit bouchon, bouchon ou série, par définition, il a un facteur de forme de 1000. Et donc, c'est un truc, c'est énorme, quoi. Donc, on a un rapport ici entre le moins 3 dB et le moins 60 dB, un rapport ici de 1000, ou un taux de sélectivité de 0,1%. Donc, un circuit LC bête et con, c'est un truc pourri de chez pourri. Et on doit utiliser autre chose pour filtrer, parce que sinon, on s'en sort pas. Alors, quelques filtres particuliers que j'ai retrouvés Alors ça, c'est des photos que j'avais prises au Radio Club. Donc ça, typiquement ici, vous avez ici une ligne qu'on appelle en microstrip. Donc c'est une bobine, finalement. Mais c'est une bobine bien particulière parce que c'est un fil, en fait. Donc l'effet bobine, il est et le champ magnétique, concrètement, il est autour du fil. Hein? C'est pas le fil qui entoure le champ magnétique, là c'est l'inverse. Et donc là, la valeur de la bobine, elle est très petite, et on a ici le condensateur variable. Ici. Et ici, alors ici ou ici, hein, c'est les mêmes, ici on a d'autres formes de bobines, un peu plus classiques, mais là ce sont des bobines qui sont gravées dans le circuit imprimé. Et ici, là, les condensateurs ajustables, donc il y a une espèce de, il y a une petite vis là, on peut mettre un tournevis là dans la fente pour ajuster la valeur. Et une fois que la valeur est ajustée, on n'y touche plus. Et encore une fois, on n'utilise pas un tournevis en ferraille, on va utiliser un tournevis en plastique pour ne pas perturber la valeur du circuit. Pas de question à l'examen. Là, je vous ai rappelé ce que c'était qu'une courbe de Gauss. Donc, ça c'est de la mathématique. Donc là, mon circuit LC suit une courbe de Gauss. Hein, donc, il est une belle courbe de Gauss. Et si vous voulez calculer tous les différentes largeurs de bande en fonction de la fréquence, ben, vous avez ici tout ce qu'il faut pour le calculer. Aucune question à l'examen, et ça tombe très bien. Mais je vous l'ai expliqué dans le cours, donc c'est pour ça que je vous ai rajouté ça. Un onde-mètre absorption, alors j'ai vu une fois une question là-dessus. C'est un très vieil instrument, moi je commence à avoir un peu de la bouteille, et j'ai commencé la radio avec un instrument un peu du même acabit. Alors c'était déjà un instrument qui était obligatoire quand on passait l'examen à l'époque. Donc l'onde-mètre à absorption, c'était un circuit LC avec des bobines interchangeables, hein, comme ça. Et sauf que là, c'est un truc un peu plus professionnel, ça s'appelle un grid dip, donc c'est un peu plus professionnel. Et il y avait une ampoule dont l'éclat s'allumait quand j'étais à la résonance, puisque c'est là où j'avais le maximum de tension, et j'avais inséré une petite ampoule de lampe de poche, hein, dans le circuit, et c'est ça qui éclairait lorsque j'atteignais la fréquence de résonance. Et c'est comme ça qu'on déterminait la fréquence, qu'on estimait la fréquence d'émission, comme si on n'avait pas d'autres moyens. Donc ça, c'est l'onde-mètre à absorption. Le grid dip, ça ressemble un petit peu, c'est un peu le même fonctionnement, si ce n'est que là, on a un oscillateur, et c'est en fait au moment où ma bobine là, entre en résonance avec ce que je veux mesurer, que du coup, elle consomme moins, et du coup, mon oscillateur, à un moment, ne consomme plus du tout, puisqu'il est alimenté, finalement, par le circuit que je mesure. Et ce que l'on mesure ici, là, avec le petit voltmètre, là, c'est la tension, c'est l'intensité que consomme mon oscillateur. Et lorsque lorsque le circuit à la même fréquence que mon oscillateur, et ben en fait c'est le circuit qui est dont on récupère ici une partie du signal dans la bobine qui alimente mon oscillateur, et donc l'oscillateur il consomme plus rien. Et c'est comme ça qu'on détermine la fréquence de résonance d'un circuit, et c'est beaucoup plus précis que mon onde-mètre à absorption. Voilà, parce qu'on a un dip. Alors ça s'appelle le dip, c'est le moment où l'oscillateur ne consomme plus rien. Voilà, donc c'est pas un pic, c'est un dip, donc on revient à zéro en termes de consommation. Le problème, c'est que aussi le dip, il fonctionne. Enfin, il y a aussi un dip à chaque harmonique. Donc, alors un dip plus ou moins franc, mais il y a un dip à chaque harmonique. Donc après, c'est à l'utilisateur de déterminer si c'est le dip vraiment de l'accord ou si c'est un ou si c'est une harmonique du signal que l'on cherche à mesurer. Bon, quasiment pas de questions à l'examen, et heureusement. Le filtre en pi. Je vous ai dit au départ que les filtres, on déterminait la pente du filtre pour les circuits passe-bas et passe-haut en fonction du nombre de composants. Dans un filtre en pi, donc ça c'est un filtre en pi, ça c'est un filtre en t, on voit bien qu'on a trois composants, deux condensateurs, une bobine. Okay. Le problème, c'est qu'ici, ce ne sont pas des filtres. Donc, c'est des filtres ici, passe-bas, ici, passe-haut. Passe-bas parce que mes condensateurs sont en bas. Ici, passe-haut parce que mes condensateurs sont en haut. En revanche, ces filtres-là n'ont que 12 décibels par octave. Pourquoi ? C'est que mes deux condensateurs, qui sont ici ou ici, là, ils sont en série, finalement, mes deux condensateurs. Et là, mes deux condensateurs, ils sont aussi en série. C'est pas aussi évident que ça. On pourrait se dire ils sont en parallèle. Eh ben non, ils vont être en série. Ça, c'est du... C'est des explications un peu compliquées qu'on verra pas ça ce soir, mais voilà, si vous cherchez un peu sur internet, vous allez avoir les explications avec des jolies formules qui vont vous expliquer pourquoi. Enfin, en tout cas, du coup, pour calculer ma fréquence de coupure de ce circuit, eh bien, il faut prendre ici les deux condensateurs comme s'ils étaient non pas en parallèle, mais en série. Et puis là, je vous ai mis, pour votre information, voilà, ça c'est un filtre passe-bas, hein, low pass filter. D'ailleurs, vous voyez bien, ici ce sont des condensateurs qui sont en haut, et ici les bobines. Et donc là, voilà, un filtre. Et là, alors on se dit, on va compter le nombre d'éléments, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc 7 éléments actifs. Pas du tout. Il n'y en a que 6. Pourquoi ? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y en a que 6. Je vous ai dit aussi que les filtres RC, par nature, ne pouvaient pas être des filtres passe-bande. Et bien finalement, en réfléchissant bien, si vous mettez un filtre passe-haut suivi d'un filtre passe-bas, ben vous avez bien réussi à faire votre filtre passe-bande. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Hein, alors après, il faut trouver les bonnes valeurs, évidemment. Et là, il y a les formules qui vont bien, qui les calculent. Mais vous avez ici un filtre, enfin, c'est deux filtres RC qui forment en fait ce filtre qui ressemble à un filtre passe-bande. Puisque j'ai 0 dB d'atténuation, enfin au tout moins moins 3 dB ici à la fréquence de coupure. Et j'ai, puisque c'est un filtre passe-haut et un filtre passe-bas ensemble, et donc ben voilà, ça vous fait un filtre passe-bande, donc un filtre comme si c'était un filtre série, sauf que là je n'ai que 6 dB par octave avant et après la fréquence de coupure. Et évidemment, c'est un filtre RC, hein. Et puis, pour ceux qui veulent s'amuser encore un peu plus, alors là, il y a les filtres Butterworth. Et donc, ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5 composants. Donc, tout va bien. Et donc, c'est un filtre d'ordre 5, donc avec 5 éléments actifs. Mais par contre, ne me demandez pas comment on arrive à cette fréquence de coupure de 8 kHz ici avec les valeurs, parce que autant vous voyez que là, ce sont des valeurs qui sont, enfin, c'est la même valeur de chaque côté, il n'y a que les valeurs du milieu qui sont différentes, là, il n'y a aucune valeur qui est pareille. Et donc, voilà, la fréquence de résonance de ce genre de circuit, c'est assez compliqué à calculer. Voilà, je vous donne la réponse pour celui-là, mais pas évident. Et en tout cas, la loi de Thomson, là, elle ne marche plus du tout. Et ça, c'est un filtre, du coup, un filtre passe-bas, puisque les condensateurs sont en bas, et ici, les bobines sont en haut. Et ici, cette résistance-là, c'est juste pour adapter l'impédance. Parce qu'il y a besoin de cette résistance pour adapter l'impédance de sortie dans ce genre de filtre. Voilà. On en arrive à la dernière partie qui est, on va la survoler. Je l'ai mis en italique dans le cours, bien qu'il y ait quelques questions, très peu. J'ai dû en repérer sur l'ensemble des questions, j'ai dû en repérer 3 ou 4. Mais voilà, donc je vous conseille de faire des impasses, sauf si vous êtes un très bon technicien. Alors, pas de questions directement sur ces formules-là. En fait, ce sont toutes les variantes que l'on peut faire avec toutes les formules qu'on a vues avant. Donc, par exemple, on peut s'amuser à calculer, par exemple, j'ai un circuit, j'ai une bobine, donc parce que je ne veux pas la recréer, j'ai une bobine, je connais sa valeur, je veux faire fonctionner un circuit sur une fréquence, et donc j'ai besoin de la valeur du condensateur, calculer cette valeur de condensateur. Donc je reprends finalement ma formule de Thomson, je la modifie un petit peu, et j'arrive à cette formule-là, qui me permet de calculer la valeur de C en fonction de la fréquence de résonance et de la valeur, ici, de la bobine. Ou inversement, j'ai mon condensateur, et je veux calculer la valeur de la bobine, enfin, j'ai la valeur du condensateur, la fréquence sur laquelle je veux que ça fonctionne, et j'ai besoin, évidemment, de calculer la valeur de la bobine. Et donc, je peux utiliser ces deux formules-là, ou, alors là, il faut être très tordu, utiliser des formules simplifiées, et donc les formules simplifiées, les voilà. Un truc intéressant, la pulsation de la fréquence de résonance, c'est donc 1 divisé par racine carrée de L multiplié par C, et l'impédance à la résonance du condensateur ou de la bobine, puisque par définition c'est à la résonance, c'est racine carrée de L divisé par C. Et ça, c'est issu directement de toutes les formules qu'on a vues antérieurement. Alors, il y a le développement, si vous voulez voir sur le cours, page 63 du cours. Voilà, ceux qui veulent creuser un petit peu et voir d'où viennent toutes ces formules-là. Bon, il n'y a pas grand intérêt, si ce n'est que vous bourrez la tête. En revanche, il y a deux formules où il y a quelques questions dessus, pas grand-chose, mais quelque chose qu'on va voir qui est intéressant. Et c'est notamment ces formules-là sont encore issues de toutes les formules qu'on a vues auparavant, évidemment, en tant qu'à faire, c'est plus facile. Et là, celle-là est très intéressante parce que, à partir du moment où on connaît la valeur de la bobine, la valeur du condensateur, qu'on a mesuré Q, parce que c'est assez facile à mesurer Q, donc le facteur de qualité d'une bobine, hein, il suffit de mesurer la tension, tout simplement, hein, on mesure la tension du générateur, et on mesure la tension à la fréquence de résonance. Donc ça, c'est relativement facile à faire, on en détermine Q, et à partir de là, tout simplement, on va déterminer la valeur de la résistance du circuit, essentiellement de la bobine, à la fréquence de résonance. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, puisque l'ohmmètre, il mesure du courant continu, et non pas du courant alternatif. Et donc, cette valeur de la résistance, on peut facilement la mesurer. Et de même, on peut aussi déterminer l'impédance du circuit bouchon grâce à la valeur de la bobine, du condensateur et du facteur Q. Voilà. Donc, quelques questions sur ces deux formules-là, mais voilà, si vous avez des impasses à faire côté technique, faites-les là-dessus. On en arrive aux questions posées à l'examen. Je ne vois pas trop de questions sur le chat. J'ai pas trop perdu de monde, donc ça va bien. Pas trop de commentaires en ce moment, donc si ça se trouve, tout le monde s'est endormi. Où est passé autre chose, je ne sais pas. Des questions relativement simples, enfin tout au moins pour celle-là, quel est ce filtre ? Bon, donc là, ce filtre, alors remarquez le piège quand même, c'est que du coup, la bobine est montée à la masse, mais la masse est en haut. Donc là, évidemment, c'est un filtre passe haut, même si le condensateur est en bas, puisqu'il faut retourner le circuit, hein, finalement. Donc ça, c'est un filtre passe bas. La fréquence de résonance de ce circuit, alors, on va pas le faire là parce qu'on en a déjà fait quelques-unes, donc on revient pas dessus sur ces calculs de fréquence de résonance. Donc on utilise soit la fréquence, la formule de base ou la formule simplifiée, comme vous voulez. Mais voilà, avec la formule simplifiée, ça doit quand même aller assez vite parce que ici on a des micro-henri et des picofarades, donc la formule simplifiée s'applique sans trop de problème. Impédance à la résonance, eh bien là, il n'y a pas grand-chose à faire, puisque c'est un circuit série, et donc la résistance à la résonance, bah, c'est égal à la résistance. On voit les réponses. Donc voilà, si vous voulez, la formule simplifiée, d'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé, ça fait 1,59 MHz ou 1,6 MHz si on utilise ici le 160 qui est encore plus simplifié. Le facteur de qualité, en revanche, là, je vais utiliser la calculette. Alors, donc 32 mA, 8 kΩ et 200 picofarads. On est parti. Alors, je rappelle la formule donc du facteur de qualité, c'est racine carrée de L divisé par C et le tout divisé par R. Donc racine carrée de L, donc c'est 32 mA, multiplié par 10 puissance moins 3, divisé par C. Alors je divise C, c'est 200 picofarads. Heureusement que je les ai notés. Moins 12. Et je divise le tout par 8 kΩ. C'est un truc pourri de chez pourri. Hein. 8 000 ohms, je ne sais pas ce que c'est comme truc. Et ça me donne donc 1,58. Donc 1,58, ça veut dire que c'est pourri de chez pourri. C'est-à-dire que si vous mettez 1 volt à l'entrée de ce circuit, je ne sais pas quelle est la fréquence de résonance, elle doit être assez basse, je suppose, vous allez obtenir que 1,58 V, finalement, entre bobine et condensateur. Donc c'est pourri de chez pourri, c'est très mauvais. Je reviens sur le PDF. Et la deuxième, c'est l'impédance à la résonance. Alors, impédance à la résonance, donc on a un Q qui fait 100, un 20 micro-henri et 500 picofarads. Alors, hop, on revient sur la caméra. Zoop. La formule, c'est quoi? C'est racine carrée de L divisé par C multiplié par Q, le tout multiplié par Q. Alors, on y va. Alors, racine carrée de L. L, c'est 20 microhenri. 20 multiplié par 10 puissance moins 6. Divisé par C. C, c'est 500 picofarads. 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse et je multiplie par Q. Q, on a dit que c'était 100. Exé, et là, ça me donne donc 20 000, 20 kilo-ohms. Donc l'impédance à ma résonance de ce circuit, je reviens sur mon PDF, c'est 20 kilo-ohms, et j'ai bien 20 kilo-ohms. Tout va bien. D'ailleurs, ici, on avait bien 1,58 aussi. Tout va bien, on n'est pas trop mauvais. On va regarder les résultats. Voilà, alors, encore une fois, faire des impasses sur ces formules, pourquoi pas, ça me choque pas. Je pense qu'il y a des points plus faciles à récupérer ailleurs, parce que en plus, on perd du temps, je pense, à retrouver la formule, et puis peut-être avoir un peu de stress en nous disant, est-ce que j'utilise bien la bonne formule ? Parce que d'abord, dans toutes les réponses, vous avez certainement des formules qui sont quasi identiques et qui sont pas bonnes, du coup. Voilà, donc, voilà. À vous de voir. Alors, étant donné un circuit RLC en parallèle à la résonance, quelle est l'affirmation vraie ? Intensité efficace et impédance minimale, intensité efficace et impédance maximale, impédance efficace minimum et impédance maximum, intensité efficace maximum et impédance minimum. Donc là, on a RLC en parallèle. Et donc, dans ce type de circuit, on a une impédance qui est maximum et une intensité. Alors la bonne question. En tout cas, l'impédance, elle est maximum. Ça, c'est certain. Et l'intensité efficace, elle doit être minimum puisque je n'ai pas d'intensité qui passe dans mon circuit. C'est le principe même de l'impédance maximum. Donc, je pense que c'est la troisième. Quelle est l'affirmation vraie ? Donc, ça, c'est toujours à la résonance. On est dans un circuit série. Donc, intensité efficace maximum et impédance minimum. Ça me semble pas trop mal, ça. Intensité efficace et impédance maximum, non. Intensité efficace et impédance minimum, non, c'est l'intensité qui est maximum. Donc c'est la réponse 1, qui est complètement l'inverse d'ailleurs de la cette première ici. J'ai une fréquence de résonance de 6 MHz et une bande passante de 50 kHz. Quel est le facteur Q ? Le facteur Q, c'est 50 kHz divisé par 6 mégas. Donc 50 divisé par 6000. Et alors si je fais 50 divisé par 6000 à la calculette, je vous le fais divisé par 6000, ça me fait 8,33 parce que... Non, c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est 6000 divisé par 50. C'est mieux. Et là, ça me fait 120 et j'ai 120. C'est bon. Oui, parce que sinon, tout à l'heure, là, je trouvais un résultat inférieur à 1. il y a un truc. Donc c'est dans l'autre sens, et donc c'est 6 mégas divisé par la bande passante, 50 kHz, et ça me donne donc une valeur de Q de 120. Voilà, la bonne réponse est là, et la bonne réponse est bien là, et 120, c'est bien la bonne réponse, c'est parfait. J'aurai encore mon examen cette fois-ci. Taux de sélectivité. Alors, un taux de sélectivité, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on refait un peu le même truc. Ici, à moins 3 dB, j'ai quoi comme bande passante? J'ai 14 kg, enfin 14, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et ici, j'ai 100, entre 3650 et 3550. Donc ça me fait 14%. Et enfin ici, impédance à la résonance. Alors, on va se le faire à la calculette, encore une fois, puisque j'aime bien ces genres de formules. Encore une fois, c'est peut-être une impasse à faire. Voilà, parce que voilà, c'est des formules à apprendre. Il y a peu de questions dessus. C'est un peu dommage de se farcir la tête avec ce genre de trucs. Je repasse sur la calculette pour calculer la réponse avec vous. Donc là, l'impédance à la résonance, la formule, c'est racine carrée de L divisé par C multiplié par Q. On l'a déjà vu celle-là. Racine carrée, j'ouvre, de L, donc c'est 10 nanohenry, c'est une toute petite valeur, hein, moins 9, divisé par 10 nanofarad, 10 nanofarad, voilà, et je multiplie par 64, puisque c'est le Q. Exé, et ça me donne justement 64 ohms, puisque là j'étais avec mes la formule de base, donc là j'ai bien 64 ohms. Hop, est-ce que je suis bon? Hop. Alors 14% et 64 ohms. Voilà. Donc autant cette question-là, c'est dommage, enfin c'est pas très compliqué, peu de calculs, tout le moins c'est des calculs assez simples. En revanche, celle-là, si vous faites l'impasse, voilà. Ça. Donc en tout sur cette partie du programme, donc des circuits LC, en tout j'ai une cinquantaine de sur la base de données qui fait à peu près 800 questions. Technique, en tout j'en ai quand même 50 qui sont recensés, dont un grand nombre qui tourne autour de ça, et puis des questions reconnaître un circuit RC, RC, LC, RL, etc. Donc pas très compliqué. Par contre, voilà, si vous avez des formules comme ça, voilà, sauf si vous êtes à l'aise avec ce genre de problématiques, mais je vous conseille plutôt de passer et de vous concentrer sur d'autres questions qui vont être, je pense, plus simples et sur lesquelles vous allez passer moins de temps. On en arrive à la manip du soir, donc je vais encore utiliser ma figure animée pour la physique que j'aime bien. Je vous montre ce que je veux faire. Donc, je vais vous faire un circuit LC, là, donc la bobine, le condensateur. Ici, une petite valeur de résistance, ici 0,6 kΩ. Et vous allez voir que si on fait varier la valeur ici de cette petite résistance, on va changer la forme, mais pas la fréquence de mon circuit. Et là, ce que je mesure, c'est, puisque là, c'est un circuit en série, hein, et je mesure la tension que j'ai entre la bobine et le condensateur. voilà ce que je vais faire. Donc je clique ici sur le lien qui doit marcher tout seul. Yes! Je passe sur Firefox. Et voici, nous y sommes. Alors, ma résistance, je vais la mettre là. Là, pour le moment, elle a 5 kΩ. Je vais lui mettre une toute petite valeur. Ici, je peux mettre 0, mais je ne vais pas mettre 0. Je vais mettre un tout petit peu après. Voilà, 0,5 kΩ, ma bobine. Mon condensateur que je vais mettre ici. Et ici, je dis, le fil ici, il est coupé. Et donc, voici ici le signal en sortie de bande de mon condensateur, là, à la fréquence de 50 kHz, pardon. 0,50 kHz. Donc 500 Hz, du coup. Parce que là, si je monte en haut, je suis à 1 kHz. Et si je suis en bas, je suis à 0. OK. Voilà, donc des fréquences qui sont pas très radio-amateurs, mais c'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Et là, je vais commencer à chercher la fréquence pour laquelle, vous voyez, ah, ça y est, voici la fréquence de résonance. Et la fréquence de résonance, hein, puisque là, les trucs, elle est énorme, hein, je vais descendre un peu, voilà. Hein, vous voyez qu'elle est énorme. Et si j'augmente la valeur ici de ma résistance, vous allez voir, hop, ça diminue. Et faut pas beaucoup, c'est-à-dire que là, par exemple, là, j'ai 300 ohms, du coup. Hein, j'ai 0,3 kΩ. Voilà, 0,3 kΩ, donc 300 ohms. Eh bien, j'ai tout de suite... j'ai tout de suite un facteur Q qui se dégrade. Et vous remarquez que je bouge ma fréquence, et quelle que soit ici la valeur de ma résistance que je mets ici, j'ai toujours la même fréquence de résonance. Et là, si je calcule avec mes 0,5 henri et mes 0,5 microfarades, eh bien ma fréquence de résonance, là, elle est à 318 Hz. Voilà. Et c'est vraiment si je fais une valeur très petite ici de résistance, où je vais avoir un maximum, un pic, qui, avec des droites quasiment de chaque côté. Alors, je cherche. Voilà, et je cherche ici quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de droit. C'est quasiment droit. Ah non, j'ai un peu de mal à obtenir une droite parfaite. Là, c'est presque parfait. Il doit manquer un tout petit chouille. J'arrive pas à l'avoir. Ouais, je suis entre les deux, voilà. C'est aux alentours de... Et dès que j'augmente ici la valeur de ma résistance, mais pas de grand chose, hein, automatiquement ça s'écroule. Mon facteur Q s'écroule. Voilà. Et lorsque je regarde ici côté mode, donc là, ce que je vais afficher, c'est le gain, ici. Donc vous voyez, ça explose, le gain. Et ici, le déphasage. Ici, alors, à 1 kiloradian, ça correspond à mes 318 Hz. Hein. Donc ici, j'ai ma valeur, là. Et lorsque je fais ici varier ma résistance, vous allez voir ici, du coup, ça augmente lorsque j'augmente ici la valeur, lorsque je diminue, pardon, la valeur de ma résistance, ça augmente ici mon pic. Et ici, ça creuse énormément ici. 318 Hz, pardon, c'est 2000 radians par seconde. Donc c'est ici, et c'est ici qu'on a alors, à la résonance, on va avoir un déphasage de 90 degrés sur mes par rapport à mon entrée. Je reviens dessus, non, c'est pour ça que je voulais faire. C'était ça. Vous voyez, ici, on a un déphasage ici de 90 degrés. C'est-à-dire que ici, je suis quasiment à. Je suis revenu à 1 là. Et ici, j'ai mon maximum ici, alors que je suis à 0 là. Ok. Et quand j'augmente la fréquence, plus j'augmente la fréquence, plus je suis en déphasage de 180 degrés. Et lorsque je suis avant la fréquence de résonance, je suis en phase. Et je suis déphasé de 90 degrés à ma fréquence de résonance. Et quand on va voir à l'oscilloscope tout à l'heure, c'est exactement. Bah oui, c'est exactement le principe du circuit bouchon. Hein. La sortie peut dépasser l'entrée. N'oubliez pas, c'est juste un problème d'impédance. C'est-à-dire que la puissance, en fait, elle est emmagasinée dans le circuit. Et comme mon condensateur et ma bobine restituent l'énergie à l'identique, ne consomme rien, eh bien ça reste dans le circuit. Et en revanche, c'est là ce que l'on mesure, c'est une tension, mais évidemment, en termes de puissance, tout reste à l'intérieur et rien n'est consommé. Et enfin, tout au moins, rien n'est consommé sauf uniquement dans la résistance. Et alors oui, ça ressemble un petit peu aux résonances de Schumann. Je suis d'accord. C'est un petit peu... là, on va un peu au-delà hein, du programme de l'examen. Mais on est bien dans ce domaine-là. Voilà comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est parce que la bobine et le condensateur emmagasinent d'énergie. Et donc, au fur et à mesure que vous envoyez de l'énergie via le générateur, comme l'énergie elle reste à l'intérieur du circuit, ben vous avez du coup, enfin rien n'en sort, ben du coup tout reste à l'intérieur et s'auto-alimente tout seul. Et évidemment, plus j'augmente la valeur de la résistance, plus la valeur de cette surtension diminue, puisque du coup il y a une partie de l'énergie qui est dissipée en chaleur. Voilà. Mais ne me dites pas que la bobine et le condensateur créent de l'énergie à partir de rien. Non, ils ont juste stocké l'énergie, c'est tout. Et d'ailleurs, si vous arrêtez le générateur, eh ben, votre circuit va s'amortir. Point barre. Et donc, toute l'énergie sera partie. Mais en tout cas, ça n'a rien créé du tout, ça a juste stocké. C'est tout ce que ça a fait. Donc maintenant, on va passer au gêné. Alors, je prépare la webcam. Alors, toc. Alors, on va regarder si c'est pas trop dégueu. Yes, pas trop mauvais. En revanche, ce que je vais faire, c'est la mise au point, parce que la mise au point n'est pas extraordinaire. Alors, la mise au point. Alors, je rapproche ça ici du truc. Alors, si ça veut bien tourner, ça. Ah, c'est pas dans le bon sens. Voilà. c'est pas trop mauvais. C'est pas encore extraordinaire. Voilà, donc je mets un peu plus de champ que vous voyez ma manip. Donc je prends mon petit stylo pour vous montrer tout ça. Donc ici, on retrouve ici la bobine que je vous avais montré la dernière fois, le condensateur qui est toujours ici. Et ici, c'est la sonde, là, où je mesure la tension entre la bobine et le condensateur. Hein, la sonde, elle est ici. Et ici, donc, vous avez... Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que... C'est plus simple pour moi. C'est que mon générateur, ici, j'envoie une tension de 10 volts pic à pic. Enfin, crête à crête, pardon. On va parler en français, quand même. Crête à crête, ici, c'est... Donc, il y a marqué ici, pic to pic. C'est pour ça que je vous dis pic à pic. Pic to pic, 10 volts. Enfin, ça bouge un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, là, pic à pic, c'est 10 volts. Et là, vous voyez, il y a 16 volts pic à pic, parce que je ne suis pas sur la fréquence de résonance. Maintenant, on va essayer d'y aller sur cette fréquence de résonance. Alors, je vois que c'est toujours un peu crade, comme je vais avancer sur le... alors, c'est pas trop mauvais, comme ça, c'est à peu près lisible. Donc, ce que je vais faire, je vais changer de fréquence. Là, donc, je suis sur 150 kHz. Et je vais changer de fréquence. Donc, j'augmente ma fréquence. Vous voyez qu'au fur et à mesure que j'augmente ma fréquence, parce que je sais que ma fréquence de résonance, elle est au-dessus, ma tension ici, elle augmente. Elle augmente. Et à un moment, ça n'augmente plus. Pourquoi ? Parce que mon oscilloscope, il est arrivé à la fin de sa, comment dire, pour sa lecture, il est au bout. Donc il faut que je le remette à zéro. Donc je lui refais un autoset. Vas-y mon pépère. Je remets les valeurs. Et là, déjà, il est déjà à 188 volts là. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin encore. Là, je suis, je pense, à peu près au maximum. Et donc là, vous voyez, j'ai 236 volts. Ce qui veut dire, comme ici, parce que je suis très fainéant, j'ai 10 volts dans mon générateur, donc mon coefficient Q, là, c'est 23, tout simplement. D'accord ? Alors, je ne sais pas si on voit bien que c'est cette valeur-là, 230 volts, c'est pas aussi évident que ça parce que c'est un peu flou. On va essayer de mettre elle est pas comme elle est un peu en surbrillance là. Hop. Ouais, pas facile à mettre à faire la mise au point sur ce truc là. Bon. C'est pas aussi net que ça, mais voilà. Donc vous avez 230 volts. Ok ? Alors, du coup, dans un système idéal, on aurait une fonte des éléments. Ça peut... Oui, si on met une grosse puissance, oui, on peut arriver à ce genre de problème. Oui. Mais il faut quand même y aller. Hein. Là, mon générateur, je sais pas... S'il fait 5 milliwatts, c'est le bout du monde. Hein. Donc, je vais pas réussir à faire fondre mes éléments, hein, je vous rassure. Mais voilà, si on a plus, sur un système d'émission, donc avec beaucoup plus de puissance, oui, le bobine et condensateur peuvent avoir des grosses valeurs, enfin des tensions importantes. Et oui, ça peut on peut arriver jusqu'à... C'est pour ça qu'on a besoin de dimensionner les bobines et les condensateurs, notamment dans les boîtes de couplage. De bien les dimensionner, sinon ça va pas. Donc voilà, et ce que je voulais vous montrer, donc on a donc mes 228 volts, et si je veux voir mon facteur Q, mais en termes de bande passante, donc je fais 228 multiplié par 0.707, alors 228 multiplié par 0.707, alors ça me fait 161 volts, et donc là je vais mesurer 161 volts de chaque côté, c'est-à-dire descendre ma fréquence jusqu'à ce que je trouve 161 volts, et d'autre part remonter ma fréquence jusqu'à ce que je trouve mes 161 volts. Et je mesure à chaque fois évidemment la fréquence. Alors 160, hop, le voilà. Donc j'ai 244 kHz d'un côté, et lorsque je repasse par un maximum, voilà, mes 220 ou même un peu plus, et je redescends de l'autre côté, voilà, 160, et là je suis à 255. Donc si je fais, et donc ma fréquence de résonance, elle est donc à 251, hein, à peu près. Voilà. C'est là où j'ai le maximum, j'ai même 240 volts, là, 244 volts. Donc c'est plutôt 24. Mais voilà, ça donne une idée. Donc ma différence entre 255 et 244, là, ça me fait 11 kHz. Et ma fréquence de résonance, donc c'est 250, donc je fais 250 divisé par 11, exé, et ça me donne 23. 23 pour mes 24 que j'ai calculé là, donc je suis content, hein, c'est pas, je reste dans l'ordre de grandeur. Et pour vous montrer que ce circuit, voilà, il y a bien quelque chose qui s'appelle une surtension. Ça s'appelle une surtension et ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il y a plus de tension à l'intérieur du circuit que la tension qui l'alimente. Juste un truc aussi, vous remarquez que lorsque j'augmente ma fréquence ici, je deviens donc en déphasage. Je suis déphasé ici de 180 degrés. Et lorsque je donc ça c'est lorsque je suis après ma fréquence de résonance et parce que je mesure aux bornes de mon condensateur, et si je change et que je viens avant la fréquence de résonance, ici je reviens en phase et je repasse par un moment où je suis à la fréquence de résonance où je suis décalé de 90 degrés. Et évidemment, si j'avais mesuré non pas aux bornes du condensateur, mais aux bornes de la bobine, ça aurait été l'inverse, évidemment. C'est-à-dire que j'aurais eu un déphasage inverse de ce que j'avais aux bornes du condensateur. Voilà. Je reviens sur mon PDF. Sur mon PDF et on va passer tous les trucs dont toutes les copies d'écran que j'avais faites et voilà mes petits calculs. Alors si on veut s'amuser à calculer donc mon facteur Q, pardon, la résistance, ma résistance de la bobine, hein. Alors c'est pas exactement les mêmes valeurs que j'ai trouvées là, je sais pas pourquoi, j'ai dû bouger quelque chose soit dans mon condensateur plutôt dans ma bobine, c'est que quand j'avais fait mes essais, j'arrivais à une surtension de 16. Là, j'arrivais à une surtension de 24. Parce que j'ai bougé légèrement le circuit. Je pense que ça a amélioré le facteur Q. Donc, c'est très sensible. Et donc là, je vais calculer la valeur de la résistance de ma bobine, la résistance série. Et c'est donc racine carrée de... Oula. Racine carrée de... Alors, la valeur de la bobine, c'est 1,12 multiplié par 10 puissance moins 3. C'est ce qu'on avait mesuré la semaine dernière. Divisé par la valeur du condensateur, c'est donc 535 picofarad, donc 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse et je divise par Q qui est donc ce soir de 24. Et donc la valeur de ma résistance interne, c'est 6 ohms. 6 ohms, alors que lorsque je la mesure à l'ohmmètre, la résistance de la bobine, et uniquement de la bobine, hein, je ne parle pas du condensateur, mais ça ne doit pas être extraordinaire le condensateur, parce que c'est un condensateur fixe, donc il n'y a pas trop de soucis, c'est 1,4 ohms. Donc vous voyez, on n'a pas du tout la même résistance quand on parle de résistance de... lié à l'effet de peau. Dernière chose que j'ai oublié de vous montrer avant de repasser sur le PDF, que je voulais vous montrer, c'est que lorsque je suis à la résonance, et pas spécialement lorsque je suis à la résonance, si je change la forme du signal, donc je suis bien repassé là, et donc que je mets par exemple un signal triangle, alors assez pourri quand même mon signal triangle, hein, vous remarquez, mais surtout, en sortie, j'ai un signal qui est sinusoïdal. Et je peux changer la fréquence, il reste sinusoïdal. Alors il a toujours le même problème de déphasage, hein, c'est-à-dire en phase déphasée de 90 degrés, de 180 degrés, mais il reste sinusoïdal. Et si je fais un signal carré, même chose. Je passe ici en phase, enfin déphasé de 180 degrés, en phase. Hein, en phase ici, je suis bien en phase ici et ici. Et lorsque je suis ici, je suis déphasé de 180 degrés. C'est-à-dire que lorsque je baisse ici, ici je suis au maxi. Hein. Comme quoi mon circuit LC va transformer tous mes signaux en signaux sinusoïdaux. Alors Claude, non, la valeur de la bobine, c'est 1,12 milli-henri. Hein, c'est une grosse bobine que j'ai là. C'est pas des micro-henri, ce sont des milli-henri. Donc c'est pour ça que j'arrivais à cette valeur de 6 ohms. Voilà, donc c'est pour bien vous montrer l'importance d'utiliser des circuits LC. Et évidemment, c'est des circuits LC quand on est en série ou en parallèle. Si on a un circuit LC passe haut ou passe bas, on n'obtient pas cette forme-là. On n'y arrive pas. Donc, il faut absolument utiliser des circuits LC, série ou parallèle, pour restituer des sinusoïdes. Voilà, je reviens sur le PDF. Et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.